Donc, comme le dit la pancarte, je m'appelle Didier Moreau, je suis directeur de cette maison, je suis technicien aussi accessoirement, donc pour les PowerPoint, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Voilà, donc bienvenue pour cette nouvelle journée d'études avec une configuration un peu particulière. Merci à Thierry Wett, qui est le coordinateur du programme Abyssan, il en dira plus tout à l'heure, avec lequel on travaille au sein même de la diffusion de la culture scientifique pour le contrat de projet État-Région. Et puis, je ne sais pas si Christian Berrier, notre président de l'école de l'ADN, avec qui nous co-organisons ces journées depuis longtemps, est retenu quelque part. Je voulais simplement vous redire en deux, trois mots le positionnement de l'espace Mendès France par rapport à ces journées, à ce travail collectif. Et puis, avant, vous redire aussi la place que tient cette maison dans le paysage territorial. Christian, tu nous rejoins? Merci. La place que l'espace Mendès France entend jouer sur ce territoire en recomposition qui est l'agglomération de Poitiers, ex-capitale régionale, et la configuration d'une nouvelle région, Nouvelle-Aquitaine en l'occurrence. Et au titre de la culture scientifique, il y a beaucoup de choses qui sont encore en interrogation, mais aussi beaucoup de choses sur lesquelles nous entendons avancer. L'espace Mendès France, je vous le rappelle, est une maison qui existe depuis une trentaine d'années maintenant, et qui a, au titre de la culture scientifique, développé nombre de dispositifs, de processus, de façons de faire un petit peu original ou singulier. D'ailleurs, la présence de l'école de l'ADN dans nos locaux est une originalité en France. Peut-être que Christian redira deux mots. L'espace Mendès France, c'est en 2016 140 000 visiteurs, 55 000 dans cet établissement lui-même, et un peu plus de 80 000 sur le rayonnement régional. L'espace Mendès France, c'est aussi, par rapport aux présentations que nous faisons, la volonté de lier la facette classique de la culture scientifique, les sciences dites dures, mathématiques, physique, biologie, sciences de la Terre, j'en passe et des meilleurs, avec la mobilisation des sciences de l'homme et de la société, de l'histoire des sciences, l'épistémologie. Et puis, dernier point, la volonté de faire des présentations qui s'inscrivent dans la notion de pluridisciplinarité, de transversalité. Alors, si je dis ça, c'est tout simplement que vous avez le programme entre les mains, et il ne vous a pas échappé que le titre qui permet de discuter sur des enjeux de société en termes de santé reprend trois termes qui sont entrés depuis assez récemment dans l'ère médiatique: les nanotechnologies, le climat, l'alimentation. Ça fait moins de 25 ans que l'on parle de tout ça, et on en parle parce qu'il y a un certain nombre de problèmes. Ces problèmes sont des problèmes scientifiques et techniques, mais ce sont aussi des problèmes de société. Donc des journées d'études comme celle-là ont pour objet et objectif de pouvoir mettre en scène l'expression du monde scientifique et de mettre en perspective cela avec les questions de société, la mise en débat de tout cela. Tout est enregistré et vous retrouvez ça, on appelle ça du podcast en français, vous retrouvez ça sur le site internet de l'espace Mendès France. Et on a constaté avec beaucoup de plaisir depuis quelques mois, quand on regarde les flux d'écoute, que ces podcastings sont extrêmement prisés par nos publics. Donc, nous avons souhaité, à travers ça, mettre à disposition de tout un chacun ce que vous allez dire aujourd'hui. Alors, encore une fois, ce qui se dit dans la salle a autant d'importance que ce qui se dit à la tribune et réciproquement. Donc, faire de la médiation scientifique, pour nous, c'est bien sûr s'inscrire dans cette volonté de valoriser la recherche, de valoriser les témoignages des personnalités qui, au plan régional, sont acteurs de cette recherche, et puis le mettre à disposition du plus grand nombre. Voilà, donc Thierry, je vais te passer la parole. Christian, tu viens nous rejoindre? Donc Christian Berrier, président de l'école de l'ADN, école que nous accueillons depuis 10 ans et avec qui nous organisons maintenant depuis 10 ans aussi nombre de journées, de temps forts, et dans l'avenir de pouvoir poursuivre ça. Monsieur le professeur.
Merci. Donc, peut-être que donne la parole tout de suite. D'abord, merci à tous et toutes et tous d'être là. C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour cette deuxième édition sur des sujets extrêmement importants de notre cadre de vie, en fait, de notre environnement. Le programme d'aujourd'hui est, je dirais, un programme idéal dans ce qu'on pourrait envisager, avec vraiment des orateurs qui ont un positionnement, j'allais dire, très... très légitime tout d'abord et très, très riche par rapport à ça, vont donc nous transmettre des messages qui sont très importants. Les sujets, Didier parlait de phénomènes qui datent de 25 ans, je pense que même pour certains, en particulier pour les nanotechnologies, c'est certainement encore beaucoup plus récent. Ce sont donc vraiment des sujets majeurs. On est finalement sur quelque chose qui nous concerne tous par rapport à notre exposition, en tant qu'individu ou groupe d'individus, effectivement, par rapport à un certain nombre de choses. Les maladies métaboliques sont quelque chose qui est aujourd'hui au cœur de la société. Quand on y rajoute en plus cet aspect d'exposition, ça devient quelque chose qui n'est pas simplement additionnel, mais probablement exponentiel. Donc on est sur quelque chose qui est certainement un point majeur. Les nanotechnologies aujourd'hui, c'est un hot topic, comme on pourrait dire, comme diraient les anglo-saxons, qui concerne un certain nombre de groupes de réflexion, mais aussi les pouvoirs publics. Il y a certaines démarches qui sont en train de se faire sur leur réelle, entre guillemets, inertie, ce qui a l'air d'être vraiment remis en cause, enfin, qui pose en tout cas un problème, et je pense que c'est un sujet qui va être extrêmement important. Et naturellement, pour ce programme de ce matin, les lanceurs d'alerte sont certainement aujourd'hui aussi des points majeurs. C'est un climat, en fait, c'est le cas de le dire, en ce moment, qui est très important. On nous promet d'un côté l'immortalité, on sera des immortels tous pollués, tous exposés. Si l'on mélange un peu tous ces aspects-là, on a un certain nombre de questions à se poser. On aura de jolies prothèses, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fera avec les nanotechnologies et qu'est-ce qu'on fera de cette exposition à tous ces polluants? Donc vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, plonge notre société peut-être à l'inverse de ce qui devrait se faire avec l'évolution technologique, sur quelque chose qui est peut-être beaucoup plus sombre finalement et où la conscience est là derrière et commence un peu à se manifester sur de nombreux points. En tout cas, merci vraiment d'être là, merci à nos orateurs, merci au public qui est présent et je pense que nous allons avoir des informations extrêmement importantes et certainement des beaux sujets de débat ce matin.
Merci. Oui, comme l'a dit Didier, l'école de l'ADN est hébergée au sein de l'espace Mendès France depuis plus de 10 ans maintenant, puisque nous avons fêté le 10e anniversaire l'année dernière. Cette école de l'ADN remporte un succès assez considérable dans, pour l'instant, le territoire, l'ex-territoire Poitou-Charentes. Et nous allons voir si nous pouvons avoir des développements sur Nouvelle-Aquitaine. L'école de l'ADN voit passer environ 6000 personnes dans son laboratoire, et aussi bien ici à Mendès-France qu'en région, puisque nous allons aussi à la rencontre des habitants de toute la région. Une des missions de cette école de l'ADN, c'est de parler des sciences du vivant, de les démystifier, et par le biais de l'expérimentation, puisque là, on ne démontre pas à notre public, mais on le fait travailler, et il travaille à la paillasse. Et même des personnes qui n'ont aucune compétence en biologie peuvent suivre ces ateliers. Donc voilà, c'est pour ça que c'est tout à fait naturel que nous soyons associés à ces rencontres du vivant. Et nous nous réjouissons chaque fois que ces manifestations ont lieu. Et voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais simplement vous souhaiter une bonne journée et beaucoup de satisfaction et de réflexion. Merci.
Merci Christian. Voilà, donc avant que Xavier Coulmoule nous rejoigne, je voulais simplement, puisque j'ai sous les yeux le titre de notre journée, donc Nano, Climat, Alimentation, donc je ne résiste pas au plaisir de vous dire que le 1er juin prochain, l'inauguration de l'exposition COP22 de l'espace Mendès-France se fera sur l'île de Pâques. C'est quelque chose d'un peu particulier, donc j'étais invité, j'irai pas, c'est dommage. Voilà, donc pour dire que les expositions que nous montons vont largement au-delà de nos frontières. Hein. L'expo climat que nous avons monté il y a 4 ans a été présente dans 37 pays, traduite en coréen, en japonais, en malais, en arabe, en anglais, en espagnol, en portugais. Et donc ce sont nos amis du Chili qui nous ont mis dans un réseau de diffusion. Donc nous serons sur l'île de Pâques et il y a un petit jeu d'exposition qui sera sur l'île de Galapagos cet hiver, enfin leur hiver plutôt, en juillet, août. Donc voilà. Et puis autrement, dans quelques jours, nous allons inaugurer l'exposition Alimentation de l'espace Mendès France qui est la troisième version en 15 ans. Et si je vous dis ça, simplement pour vous dire qu'on a sûrement parlé un petit peu de glucides, de lipides, etc. Mais on a sûrement et encore plus parlé des usages et de l'évolution du regard et des représentations. Et la façon dont on va dialoguer avec les publics sera autour justement de ces usages et des enjeux, de ce que Thierry a rappelé. Voilà, donc c'était des nouvelles de la maison. Xavier. Ah, voilà. La parole est à vous. Et bonne journée. Moi, je vais inaugurer la fête de la science maintenant. Donc,
merci beaucoup. Je voudrais remercier vraiment les organisateurs pour cette invitation. Je suis très content d'être ici. Je vais rebrancher juste la souris pour au cas où voilà, j'aurai besoin d'elle. Et donc moi je vais vous parler d'un sujet qui me touche à la fois en tant que scientifique et en tant que citoyen, c'est l'impact évidemment des polluants. Alors hop, si ça veut bien s'enlever, voilà, tac. Donc l'impact des polluants sur les maladies métaboliques, exposition aux polluants environnementaux et quel impact sur les maladies métaboliques. Donc ça se veut interactif, il n'est pas impossible qu'à certains moments je m'arrête et que je vous pose des questions. D'accord, il n'y a pas de raison que ce soit que moi qui ai à fournir des réponses. Donc voilà. Donc dans le cadre de ce séminaire Nano, Climat et Alimentation. Donc moi je suis professeur de toxicologie moléculaire. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le détail des mécanismes, mais je vais essayer de vous brasser un petit peu des notions assez générales sur ce que l'on sait à propos de ces expositions aux polluants, les modèles qu'on utilise pour pouvoir les étudier. Et donc avec cette focalisation sur les impacts métaboliques. Alors, quelques diapos d'introduction, hein, puisque j'ai à peu près une demi-heure, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, quelques diapos d'introduction générale. Donc, l'environnement, ça peut se définir de plusieurs manières, avec différents agents qui sont donc susceptibles d'exercer une toxicité sur les organismes. On peut relever des agents physiques, des agents biologiques, des agents chimiques. Donc, les agents physiques, par exemple, les ultraviolets, d'accord, hein, c'est typiquement de la toxicologie. Les agents biologiques, les virus, par exemple, les bactéries, et puis des agents chimiques. Et parmi les agents chimiques, ceux auxquels je m'intéresse, ce sont ces polluants environnementaux, parmi lesquels on peut dresser une liste, mais évidemment elle n'est pas exhaustive, dans laquelle on va trouver par exemple des hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc c'est typiquement ce que vous pouvez respirer parfois dans les villes suite au dégagement des pots d'échappement des voitures, des hydrocarbures aromatiques halogénées, on en parlera un peu plus, des amines aromatiques, des pesticides, des métaux lourds, de l'amiante, des nanomatériaux, ça vous en entendrez un peu plus parler avec Franceline dans quelques temps. Et en fait, de notre côté, au sein de mon laboratoire, on a tendance à les classifier en deux grandes catégories, les polluants organiques non persistants, qui représentent une très large majorité, et les polluants organiques persistants. Donc les non persistants, vous avez par exemple des noms que vous avez entendus dans la littérature ou dans les médias, le bisphénol A par exemple, les phtalates. Parmi les polluants organiques persistants, qui se caractérisent par une accumulation donc, qui est longue dans les organismes, d'où le terme de persistant, on va trouver des PCB, ça, on en entend relativement parler aussi. Certains pesticides, même si, en tout cas, en France, normalement, il n'y en a plus qui sont commercialisés. Ça, a priori. Des composés polybromés et puis des dioxines. Et quand on parle de persistance, vous voyez, j'ai mis un exemple, c'est celui de la dioxine de Seveso, pour lequel la demi-vie, hein, ça pourrait être bien précis sur le terme 7 ans, la demi-vie est de 7 ans chez l'homme. Ça veut dire que si vous en ingérez 1 mg aujourd'hui, dans 7 ans, vous allez avoir encore 0,5 mg contenu dans votre corps. Donc la persistance, c'est aussi une notion qui se réfère à l'accumulation. Et on peut parler des propriétés qui distinguent donc, ces polluants organiques persistants des non persistants. Tous sont en général relativement lipophiles. Le bisphénol A, c'est très lipophile, la dioxine, c'est très lipophile. Donc ce n'est pas la lipophilie qui va les distinguer, même si la lipophilie est une caractéristique de ces polluants organiques persistants, ou POP. Je peux utiliser cet acronyme, c'est un peu plus simple. Ces POP se caractérisent aussi par une résistance vis-à-vis du métabolisme des xénobiotiques. Alors le terme xénobiotique, c'est un terme un peu barbare, mais xéno, ça fait référence à étranger. Donc ce sont des petites molécules et organiques d'origine étrangère à l'organisme étudié et susceptibles d'exercer des effets toxiques. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce métabolisme des xénobiotiques ? Eh bien, il se décompose en plusieurs phases. Avec une première phase, si on représente, alors ça c'est pas un organisme, c'est une cellule, ce que j'ai représenté en bleu. Si vous imaginez qu'un polluant, le bisphénol A par exemple, arrive au niveau d'une cellule, eh bien, celui-ci est pris en charge. Je vais peut-être utiliser mon pointeur, ce sera peut-être plus simple. Parce que comme ça, je ne passerai pas devant les diapos en permanence. C'est une tendance à beaucoup bouger. Donc, alors, le problème, c'est que j'ai une poche un peu comme un sac... Oui, c'est ça, vous avez tout compris. J'ai remarqué tel machiste, mais...
Ah, tu l'as trouvé ?
Non, pas encore, mais ça va venir. Non, mais moi, j'en ai un. Je l'ai pris, justement. J'ai vérifié que je l'avais ce matin. Et c'est évidemment toujours... Ouais, je veux bien. Merci. C'est évidemment toujours l'objet qu'on cherche. Il est là. Qu'on ne trouve pas. Voilà.
Tu me l'as fait ça ?
Oui, bien sûr. Il faut que je pense juste à le récupérer. Espérons qu'il fonctionne. Ça marche. Bon, très bien. Comme ça, au moins, je ne serai plus en train de passer devant. Donc, un xénobiotique rentre, par exemple, dans une cellule. Ce xénobiotique est alors pris en charge par ce qu'on appelle ce fameux métabolisme. Et ce métabolisme se décompose en trois phases. La première phase, c'est une phase dite de fonctionnalisation, qui est catalysée par des enzymes qu'on appelle des cytochromes. Bon, peu importe. Quel est l'intérêt de cette phase ? Eh bien, c'est de mettre à profit cette fonctionnalisation pour greffer sur la molécule, en général, un résidu qui est beaucoup plus hydrophile, donc soluble dans l'eau, ce qui permet d'obtenir un métabolite comparativement au xénobiotique original. Et ce métabolite, il est plus facilement soluble dans les urines, dans les fesses et puis également dans la sueur, ce qui permet de l'éliminer plus facilement. Donc l'intérêt de ce métabolisme des xénobiotiques, ce que vous pouvez ramener à la maison du coup, c'est son intérêt principal, c'est de favoriser l'élimination de ces polluants, comme le bisphénol A, qui est non persistant, même si on est exposé en permanence au bisphénol A par l'alimentation. Et puis, on a une troisième phase qui est celle de l'expulsion du xénobiotique hors de la cellule, parce que étant beaucoup plus hydrophile, eh bien, il a plus de mal à passer les membranes. Bien, alors voilà donc le schéma général de ce métabolisme, et qui se décompose donc en trois phases, comme je l'ai dit, avec une expression de protéines qui est constitutive ou régulée. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, ce métabolisme s'adapte à votre exposition. Quand vous êtes exposé à un hydrocarbure ou quand vous êtes exposé à un pesticide, eh bien, ce n'est pas tout à fait le même type de stock enzymatique qui va être exprimé par la cellule pour favoriser cette détoxication. Donc il y a un système relativement élégant mis en place par la cellule, même si c'est un peu finaliste de le dire ainsi, qui est en fait donc une adaptation à un stress d'exposition aux xénobiotiques, qui permet de favoriser l'élimination d'une très grande majorité de polluants auxquels on est exposé. Alors, ça signifie obligatoirement qu'il y a une phase aussi de détection. C'est-à-dire que si vous avez ce métabolisme qui se met en place, c'est parce qu'il y a un agent, un membre, une protéine, un récepteur, on va dire, qui est capable donc de détecter la présence de cette molécule hydrophobe. Et donc, ce schéma général vous illustre comment ça fonctionne. La molécule hydrophobe est détectée par le récepteur. Le récepteur va réguler l'expression des enzymes dont je viens juste de parler, phase 1, phase 2 et phase 3, et favoriser quoi ? Eh bien, l'élimination de la molécule en la rendant plus hydrophile, plus facilement par exemple éliminable dans les urines. On retrouve des conjugués du bisphénol A évidemment dans nos urines, c'est quelque chose qui est relativement facile à doser. Alors la réalité environnementale, c'est que comme je viens de vous le présenter, là c'est un schéma très général et très simplifié puisque je vous ai montré un polluant et puis un métabolisme de polluant. La réalité environnementale, c'est qu'on n'est pas exposé à un seul polluant quand on fume une cigarette ou quand on mange par exemple un composé qui est, on va dire, un aliment qui est produit de l'agriculture industrielle. On va être exposé à plusieurs pesticides. Donc on est exposé à des polluants environnementaux sous forme de mélange, avec une toxicité des mélanges qui demeure encore relativement mal caractérisée. Ça fait 10 ans qu'on dit c'est mal caractérisé. Il faut voir une chose, c'est que les agences sanitaires, l'ANSES, etc., financent de plus en plus de projets qui portent sur ces mélanges. Donc en tout cas, sur ce plan-là, ça évolue plutôt bien. Et on a pu commencer à caractériser l'influence de ces polluants sur les maladies métaboliques, notamment au travers d'études épidémiologiques dont je vais commencer à parler, puis d'études mécanistiques chez l'animal et au niveau des cellules. Et donc ma présentation va se décomposer maintenant sous la forme de la présentation de chacun de ces modèles. Donc les premiers liens portent notamment sur des études épidémiologiques. Donc la diapo est ici en anglais parce qu'elle est extraite d'un article donc, qui est publié dans Endocrine Reviews en 2014. Et cet article fait référence à une exposition à des polluants organiques persistants à haute dose, suite donc par exemple à des accidents ou des expositions industrielles. Donc ici dans cette table, vous avez un résumé des recherches épidémiologiques qui ont été menées pour voilà, montrer s'il existe une association ou non entre diabète de type 2, maladie métabolique typique, et l'exposition à la TCDD. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la TCDD ? Il y en a qui savent, oui, évidemment. Mais la TCDD, c'est la dioxine de Céveso, dont j'ai parlé préalablement. Donc c'est quoi ? C'est un POP ou c'est un non-POP ? C'est un POP. Voilà, c'est un persistant, d'accord ? Donc cette TCDD, qui est persistante, hein, 7 ans de demi-vie chez nous, ça me permet de le rappeler, on montre que lorsqu'on étudie des personnes qui sont exposées à cette dioxine via l'agent orange, qui était utilisé comme défoliant au Vietnam, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, cet agent orange était très contaminé en dioxine, donc on a pu mener des études épidémiologiques, par exemple, chez les vétérans américains, ou même chez des vétérans coréens ici qui ont été exposés à l'agent orange, on montre qu'il y a des associations positives entre diabète de type 2 et l'exposition à ces molécules. Alors, il faut tout de même nuancer cette notion. Hein. T2D, c'est pour diabète de type 2 ici, puisque lorsqu'on s'intéresse à des expositions, on va dire, qui sont par exemple faites de travail dans l'industrie, donc des occupational exposure in plants, plantes c'est pour industrie, ou des expositions accidentelles, eh bien c'est pas si net. On a des associations parfois même inverses, parfois positives, parfois pas d'association. Donc on a des contradictions qui sont liées évidemment au fait que les études épidémiologiques peuvent présenter de nombreux biais, puisque évidemment une population c'est quelque chose, comparativement à des souris qui sont parfaitement, on va dire, homogènes sur le plan génétique, une population, elle a aussi une composante génétique très hétérogène et parfois difficile à étudier. Donc des études anciennes contradictoires par rapport à ce que je vous ai présenté. Et plus récemment, il y a des données assez intéressantes qui ont émergé dans la littérature, toujours épidémiologique, et qui ne portent pas, non pas sur des expositions à haute dose, mais sur des expositions à plus basse dose. Donc là, la logique, c'est on s'attend plus que la dose est plus basse, à ce qu'il y ait moins de liens et plus de contradictions encore. Et bien, ce n'est pas tout à fait ça. Puisque, toujours dans cette même revue, il faisait référence à des associations positives toujours entre diabète de type 2 et un autre type de POP, donc des pesticides organochlorés et des PCB sous forme de mélange, dans plusieurs pays, 17 au total, alors 17 études au total, donc ce n'est pas 17 pays, c'est un certain nombre de pays et 17 études au total, association positive entre l'exposition à ce mélange et donc diabète de type 2. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que les expositions étudiées, c'était des expositions de la population générale, et qui montre sur le long terme et à des doses plus basses que celles que je vous présentais préalablement, qu'il y a donc cette association positive. La seule étude au total sur les 17 qui montrait qu'il n'y avait pas d'association, c'était une étude sur les Inuits, qui sont dans la population générale ceux qui sont les plus exposés, quasiment, parce qu'ils ont une consommation importante de poissons qui sont contaminés avec ces polluants. Donc ça, c'était plutôt intéressant, avec donc également des données qui nous proviennent des États-Unis, de la population américaine, sur par exemple ce mélange de deux dioxines, un PCB et trois métabolites de pesticides organochlorés, montrant une forte association avec le diabète de type 2. Alors je vais vous montrer ce schéma, sans détailler trop ce schéma, je vais vous laisser 30 secondes pour bien l'analyser, puis je vais essayer de voir si dans la salle, vous voir comment vous interprétez ce schéma. Puisque dans ce schéma, les auteurs se sont intéressés, certes, à l'exposition et à l'incidence du diabète de type 2. Vous voyez, je me focalise beaucoup sur la prévalence du diabète de type 2. On va dire que c'est le premier axe ici. La contamination, ça va être l'axe qui est ici, mais également au fait que des personnes soient obèses ou non. Et donc là, on est typiquement dans une étude qui dépasse le côté toxicité-pathologie. Il prend en compte, en plus, le côté, l'aspect contextuel, on va dire. Donc dans cette figure, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Donc c'est la question que je vais vous poser. Je vous détaille un tout petit peu la figure. Le premier axe à considérer, c'est la prévalence du diabète. Donc plus les barres sont hautes, plus ça veut dire qu'il y a de diabète. Là, vous avez la contamination en polluant qui est en fait répartie sous forme de quintiles. Vous divisez la population en 5 catégories. Q1, c'est les moins exposés. Q5, c'est les plus exposés. Et là, en bas, vous avez ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, le body mass index en anglais. C'est en fait un index qui est utilisé pour catégoriser les gens dans obèse, en surpoids ou de poids normal. D'accord ? Donc là, vous avez les gens, on va dire normaux, c'est pas très bon comme terme. Là, vous avez les gens en surpoids et là, vous avez les gens obèses. Voilà. Donc, je vous laisse 30 secondes pour regarder ça et essayer de me dire s'il n'y a pas quelque chose qui est intéressant au-delà du fait qu'on voit qu'il y a clairement une augmentation de la prévalence de diabète plus on va vers le body mass index élevé et la contamination élevée.
Avec les obèses, effectivement, Oui. Il y a autre chose qui est intéressant aussi.
Je pense que c'est bien de faire intervenir aussi le public. Voilà. Ils vont parler. Ils n'osent pas là. Mais... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous surprend dans le diagramme? Quelque chose d'assez incroyable même, on peut dire. La première ligne. Pourquoi la première ligne? La ligne ici. Il n'y a pas de diabète. Il n'y a pas de diabète, même chez des personnes obèses, d'accord, à 30 plus, ou très peu, d'accord, sachant qu'ils ne, eux représentent la population la moins contaminée. D'accord. Donc on a le sentiment, quand on regarde ce diagramme, effectivement, le plus intéressant. On voit bien que plus, voilà, plus on est, on va dire, obèse, et plus on a de chances d'être obèse, et plus on est contaminé, plus il y a une prévalence diabétique qui est importante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation de la prévalence du diabète, effectivement, dans la population qui est la moins contaminée. Donc ici, faible ou aucune association entre obésité et diabète de type 2 pour les faibles concentrations en POP. Et ça, c'est vraiment une information assez intéressante puisque ça semble indiquer que la présence des POP joue un rôle sur la maladie métabolique. On peut dire que l'obésité, c'est une maladie métabolique, en sorte. Mais le diabète de type 2, c'en est aussi une. Et là, le diabète de type 2, il y a une conséquence fonctionnelle. Il y a des obèses qui vivent en bonne santé, des obèses qui vivent en mauvaise santé, mais le diabète de type 2, ça a de vraies conséquences dans la vie de tous les jours. Alors, quelques exemples maintenant d'études expérimentales, parce que quand on fait des études épidémiologiques de la sorte, et en toxicologie, on fait de plus en plus d'études d'interface comme ça. On a des labos de toxicologie moléculaire qui interagissent avec des toxicologues épidémiologistes, parce qu'évidemment, cette interface permet de nous, de notre côté moléculaire, de s'ancrer dans la réalité des mélanges, par exemple. On leur demande, voilà, à quel type de pathologie vous associez tel type de mélange, ou plutôt quel type de pathologie est associé à quel type de polluant. Nous, ça nous permet de savoir sur quel polluant on doit travailler pour pouvoir étudier le mécanisme. Donc, typiquement, à la suite des études épidémiologiques, il y a souvent des études expérimentales qui sont réalisées. En tout cas, elles sont typiquement à l'interface. Là, vous avez une étude qui a été réalisée en 2010. C'est un article que j'aime bien parce que il est relativement bien fait sur le plan méthodologique. Il est très bien fait sur le plan méthodologique. C'est un article qui étudie l'exposition de rats avec de l'huile de saumon contaminée avec des POP. Donc l'huile n'a pas été trafiquée. C'est une huile qui est contaminée, qui est connue comme étant contaminée avec des POP. Donc polluant organique persistant. Et vous avez quatre conditions de nutrition différentes ici. La première, le chaud, c'est un régime normal, pas riche en gras. La deuxième en noir, c'est un régime qui est high fat, c'est-à-dire riche en gras. D'accord. La troisième condition, HFR, on va en reparler dans un instant. Et la quatrième, c'est cette fameuse huile de saumon contaminée. Oui, donc là, je me suis trompé sur le code couleur. Donc, c'est l'huile de saumon contaminée, c'est HFC, high fat contaminated, on va dire. D'accord. Et le R, HFR, c'est cette huile qui a été décontaminée avant adjonction donc, au régime. Qu'est-ce qu'on constate dans l'étude lorsqu'on fait un suivi des rats? Eh bien, que le régime riche en gras, le HFR et le HSC favorisent la prise de poids et favorisent, là c'est le gras viscéral, l'augmentation de la masse du gras viscéral. Rien de très surprenant, mais on voit quand même qu'avec l'huile contaminée, la dernière barre, eh bien, on a une augmentation plus importante. Et lorsqu'on en regarde au niveau, par exemple, hépatique, on constate, comparativement à un régime normal, lorsqu'on va colorer le foie avec un colorant rouge qui révèle les lipides, eh bien, qu'il y a une augmentation très importante de la quantité de lipides dans ces deux conditions, high fat contaminé, et un peu moins dans high fat raffiné, c'est-à-dire l'huile qui a été débarrassée des polluants. Et si on s'intéresse de près à l'architecture histologique, on va dire, du foie, eh bien, on constate que dans le foie de rats nourris avec l'huile contaminée, eh bien, on a la présence de ces gouttelettes rondes ici. Si on agrandit, on les voit un peu mieux ici. Vous voyez la différence d'architecture. C'est ce qu'on appelle de la stéatose hépatique. D'accord ? C'est-à-dire l'accumulation de lipides dans le foie. Et c'est ici une stéato-hépatose qui est donc majeure. Alors, il y a d'autres pathologies que le diabète, hein, parce que je vous parle du diabète depuis le début. Évidemment, on pourrait parler de tout un tas d'autres maladies. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Puisque depuis 2006, il y a une hypothèse qui est donc formulée par Blues Bloomberg, c'est bien le fait que certains polluants puissent être ce qu'on appelle des obésogènes, c'est-à-dire des molécules qui favorisent, qui génèrent de l'obésité. Ça peut être des POP et des non-POP d'ailleurs, hein, puisque je vous ai parlé toujours de POP depuis le début. Parmi les candidats qui ont fait l'objet d'études expérimentales qui valident cette hypothèse, les organoéthins, les organophosphorés, le bisphénol A, les phtalates, les métaux lourds, certains mélanges Nous, dans le laboratoire, on sait que les polluants type dioxine ont une tendance à faire gagner du poids lorsqu'on expose des bébés pendant la période in utero. Ce n'est pas encore publié, mais on espère publier ça bientôt. Et donc, il y a tout un tas de molécules qui peuvent avoir cet effet obésogénique. Là aussi, il y a des études contradictoires. Quelques exemples d'études, puisque si on s'intéresse à l'adipogénèse, c'est-à-dire la formation des adipocytes, la formation du tissu graisseux, blanc en tout cas, lorsqu'on réalise ce qu'on appelle des études in vitro, donc sur des cellules en culture, on constate que lorsqu'on utilise de la TCDD à deux doses différentes, 10 nanomolaires ou 0,1 nanomolaire, il y a quand même 100, il y a un facteur 100 ici d'écart, à 10 nanomolaires, on inhibe l'adipogénèse, donc on a des adipocytes qui n'ont pas tendance à accumuler du gras, alors qu'à 0,1 nanomolaire, c'est-à-dire à des doses 100 fois plus basses, eh bien, on stimule l'adipogénèse. Là encore, c'est pas un paradoxe, hein, parce qu'en toxicologie, maintenant, la notion de basse dose n'est plus réellement considérée comme un paradoxe. On a des mécanismes qui permettent d'expliquer les effets basse dose, mais en tout cas, à 0,1 nanomolaire, eh bien, on a cette stimulation de l'adipogénèse, donc à une très basse dose. Si on prend des pesticides organochlorés ou des métabolites de pesticides organochlorés, le DDT est transformé en DDE. Eh bien, le DDT est adipogénique entre 1 et 50 micromolaires, toujours sur le même type de cellules, c'était des cellules adipocytaires. L'andrine a un effet anti-adipogénique et le DDE, qui est donc le métabolite du DDT, lui n'a pas d'effet. Ce qui veut dire que même des molécules qui sont très proches l'une de l'autre structurellement, c'est pas nécessairement évident que ces molécules aient nécessairement le même effet. Et ça, c'est important, puisque il ne faut pas, entre guillemets, du coup, catégoriser les molécules et dire cette famille va avoir un effet adipogénique ou non adipogénique. Il faut vraiment aller regarder dans le détail chacune des molécules. Ça pose évidemment aussi la question des mélanges, parce que quand vous allez avoir tous ces composés à des doses qui vont varier du simple au double ou du simple au 100, eh bien, on peut avoir des effets très différents. Oui. Alors, ces pesticides, DDT, andrine, etc., c'est des pesticides organochlorés. Donc, c'est des pesticides qui sont interdits depuis pas mal d'années. Si vous prenez le chlordane, c'est interdit depuis, je ne sais plus, 2008, 2010. Enfin, bon, voilà. Il y en a qui sont interdits depuis beaucoup plus longtemps, le DTT. Le seul problème, c'est que, par exemple, on en trouve encore dans les sols parce que ce sont des persistants. Il n'y a pas si longtemps, il y avait une étude qui était assez anxiogène, qui avait été menée sur les laitues, je me souviens, assez médiatisée. Et on trouvait encore des traces de DDT dans certaines laitues, dans un échantillon de laitues sur les 30. Voilà. Et chez les poissons, on en trouve. Dans quel type Donc, dioxine et puis ses composants, on les trouve typiquement, effectivement, dans les poissons, puisque les PCB, on en trouve beaucoup, par exemple, aussi dans le Rhône. Et c'est pour ça que la pêche dans le Rhône était en tout cas interdite. Je ne sais pas où en est la réglementation par rapport à ça. Donc ce sont en tout cas des molécules qui sont interdites, non commercialisées pour les pesticides. La dioxine n'est jamais produite volontairement. C'est toujours un produit qui est produit involontairement, quasiment involontairement. Pour les labos de recherche, on en produit, mais bon, ça c'est autre chose, hein, c'est vraiment mineur. Et ce sont des composés qu'on va malheureusement retrouver dans l'environnement, même si on essaie de ne pas les produire, on évite la contamination, ou s'ils ont été... Voilà, typiquement, les dioxines, c'est ça. Alors, sachant que maintenant, si vous visitez vos incinérateurs, les filtres qui sont maintenant installés dans les incinérateurs permettent quand même de limiter la contamination par rapport à une certaine époque. Si vous comparez les niveaux de contamination dans les années 70 à maintenant en dioxine, c'est quand même beaucoup plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas remplacé certains polluants par d'autres polluants. Hein, d'accord ? Il y a, la dioxine, ça a tendance à baisser, mais d'autres polluants, ça augmente. Hein. Donc les polybromés, par exemple, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, si on s'intéresse maintenant, si on revient aux études épidémiologiques sur les autres maladies métaboliques et pas donc le diabète, ça peut être extrêmement compliqué pour l'analyse parce qu'il y a une notion qui est importante à considérer lorsqu'on considère le tissu adipeux, c'est que ce tissu adipeux peut capter les polluants organiques persistants notamment. Ça veut dire que lorsqu'on a une perte de poids, eh bien, on peut avoir une libération de ces polluants dans le sang et on peut avoir une libération à haut bruit. Et du coup, c'est pas toujours évident de réaliser une analyse sur ces maladies métaboliques parce que eh bien, les personnes peuvent prendre ou perdre du poids au moment où on les analyse. Alors, pour ce qui est néanmoins, pour ce qu'on connaît, on sait que par rapport à l'obésité en tout cas, les organochlorés, donc les pesticides organochlorés qui sont désormais interdits, il y a des associations positives qui sont mises en évidence ou parfois pas d'association. Pour les PCB, qui sont des molécules qui étaient produites volontairement à une époque pour, vous savez, isoler les tuyaux, ça servait d'isolant. Il y a toute une famille de PCB, donc c'est très très complexe. Je ne suis pas un spécialiste de la, on va dire, des structures de PCB, mais il y a des PCB plus ou moins chlorés. Ceux qui sont les plus chlorés sont associés de manière inverse avec donc ces maladies métaboliques. Les moins chlorés, c'est plutôt une association positive. Là encore, si on considère des variations, pas mineures, hein, parce qu'un chlore, c'est quand même, sur le plan atomique, quelque chose d'assez gros, mais si on considère tout de même des variations qui, à l'échelle de la molécule, vont pas être mineures, mais vont être subtiles, eh bien, on peut avoir de vraies différences d'effets sur le plan mécanistique. Alors, autre maladie métabolique, ça implique également, pas seulement l'obésité ou le diabète, mais aussi potentiellement des maladies d'organes qui déclenchent des maladies métaboliques. Si vous avez un foie qui fonctionne mal, bah vous allez mal réguler la glycémie, vous allez mal réguler typiquement la concentration de glucose dans le sang, donc cette glycémie. Et nous, on s'est intéressé au laboratoire pour présenter quelques-uns de nos travaux à la fibrose hépatique. C'est des travaux que Franceline connaît puisqu'elle était dans le jury de thèse de quelqu'un qui a publié donc ses travaux. Donc ça, c'est justement donc Stéphane Pierre, tu étais dans son jury de thèse, hein, voilà, qui a publié ça il y a quelques années. On avait en fait, on menait des études in vitro sur des cellules et on voulait démontrer que certains gènes étaient induits aussi in vivo. Et donc Stéphane, à l'époque, a mené une étude sur l'animal en faisant des expositions hebdomadaires de souris à la dioxine. On voulait récupérer les foies pour démontrer ces phénomènes. On était vraiment à l'échelle moléculaire. Et en examinant les souris qui sacrifiaient, il disait mais quand même, leur foie est bizarre. Et donc du coup, on a mené une étude, et c'est vraiment lui qui l'a menée. C'est ça qui est intéressant aussi dans le développement des thésards, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie évolution entre première, deuxième et troisième année. C'est vraiment lui qui a pris l'initiative de dire on va faire de l'histologie sur le foie. Il a commencé à regarder donc l'état des foies de souris exposées de manière hebdomadaire à la dioxine, à des doses assez fortes, hein, 25 microgrammes kilo, ce qui ne sont pas les doses les plus élevées, mais qui sont relativement élevées. Et il a pu démontrer qu'après deux semaines d'exposition, pardon, je vais revenir ici. Après deux semaines d'exposition, on avait, vous voyez, ces espèces de foyers inflammatoires caractéristiques au niveau hépatique. Et après six semaines d'exposition, lorsqu'on colore avec des marqueurs de type collagène ou alpha-SMA qui permettent de révéler la fibrose hépatique, on voit qu'il y a une augmentation considérable de ces marqueurs au niveau donc hépatique suite à l'exposition à cette dioxine. Quand je dis exposition six semaines, ce n'est pas tous les jours. Hein. Les souris étaient exposées chaque lundi. Donc c'est quand même pas une exposition qui est faramineuse. À la suite de ça, on s'est posé la question du contexte. C'est-à-dire on s'est dit quand même les doses qu'on utilise sont un peu élevées. Essayons de diminuer ces doses. On était à 25 microgrammes kilo. On a mené des études pour entre 0,1 et 100 microgrammes kilo pour évaluer quelles étaient les doses qui étaient non fibrogéniques. C'est-à-dire qui ne provoquaient pas ce que je viens de vous révéler là. On est arrivé à une dose de 5 microgrammes kilo et en plus de nourrir les souris, ou plutôt de les exposer à cette dose de 5 microgrammes kilo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé leur alimentation. On s'est mis dans un contexte qui était le suivant. Quelle influence du contexte ? Nutrition avec un régime pauvre en gras, low fat, 10% de gras seulement, ou 45% de gras. Et donc, on a nourri ces souris avec donc ces deux types de régimes, et on leur a administré ou non la TCDD à des doses non fibrogéniques pendant les dernières semaines. Et à la suite de ça, donc on a mené tout un tas de choses, on a prélevé du sang, on a récupéré du foie, du tissu adipeux, on a récupéré du sang. Je vais vous montrer ce qui est le plus significatif. On a pu montrer que lorsqu'on expose des souris à un régime riche en dioxines, en low fat, on a une augmentation de la quantité de triglycérides, on le voit un petit peu ici, au niveau hépatique. Donc là, c'est sans régime riche en gras. D'accord ? Lorsqu'on expose à un régime riche en gras, il y a une augmentation, mais elle n'est pas aussi élevée. Donc ça, ce n'est pas inintéressant. Là, c'est vraiment le foie. Hein, d'accord ? Donc on est en train d'étudier spécifiquement le foie. Et lorsqu'on combine la double exposition, donc IFAT et TCDD, là, il y a une augmentation, on le voit très bien là sur la diapo, une augmentation considérable du taux de triglycérides, c'est des lipides de stockage, au niveau hépatique. D'accord ? Donc l'obtention d'un foie qui est assez gras. Et lorsqu'on est ensuite passé à la fibrose, même topo, donc régime pauvre en gras contaminé en TCDD, riche en gras contaminé en TCDD, on voit qu'il y a ces travées qui apparaissent dans la dernière condition, c'est-à-dire la condition combinée, on va dire, avec ces colorations donc qu'on appelle au rouge Sirius, qui révèlent qu'il y a une fibrose hépatique qui apparaît à des doses non fibrogéniques de dioxine, mais parce que la souris était contaminée, exposée à un régime, une alimentation riche en gras. Donc cette notion de contexte est vraiment quelque chose d'important. On a résumé ça sous la forme d'un schéma un peu compliqué qui montre qu'en fait la dioxine va perturber l'expression de certains gènes qui favorisent l'import des acides gras dans la cellule, ce qui va favoriser l'astéatose puisque ces acides gras vont ensuite être transformés en triglycérides et surtout inhibe la sécrétion de composants comme les VLDL qui permettent donc le transport de ces triglycérides d'un organe à un autre, avec une mauvaise stéatose qui est créée et avec donc un phénotype inflammatoire associé. Donc bon, sans aller trop dans le détail, l'article il est disponible maintenant sur le site de HP. Et ce sont des études qu'on a menées donc dans un contexte, sous un aspect contextuel. Donc un effet combiné délétère. Donc en conclusion, parce que je pense que j'en suis à 30 minutes, en conclusion, quelques questions qui sont en suspens. Évidemment, pour résumer, donc ça c'est pas les questions, mais les polluants environnementaux ont un lien avec les maladies métaboliques, ça c'est indéniable. Diabète de type 2, obésité ou maladie chronique du foie, qui représentent quand même des pathologies non négligeables qualitativement et quantitativement pour, en termes de santé publique. Je pense que tout le monde en est vraiment conscient. Il faut évidemment faire très très attention au niveau expérimental aux modes d'exposition, les doses, les périodes, les durées. On mène donc des études in utero à l'heure actuelle, on met des études sur l'adulte, on essaie de comparer les deux. Bon voilà, c'est des choses qui sont vraiment importantes à considérer. Vous avez vu au travers de mon topo qu'il y a probablement des effets doses parfois surprenants, mais il faut s'habituer à se dire que voilà, parfois à très haute dose, l'organisme se protège parce qu'il est capable de détecter la présence des polluants et peut-être qu'à basse dose, il ne se protège pas parce qu'il ne les détecte pas. Voilà, et c'est peut-être ça qui explique l'effet des faibles doses. C'est le fait que le système de détoxication que je vous ai présenté tout au début, peut-être, eh bien, n'est-il pas si fonctionnel à des très très faibles doses. Ce qui n'empêche pas l'effet des polluants du coup. Alors, quelles solutions? Bah, c'est des solutions très compliquées, parce qu'évidemment, alors peut-être que Nathalie en reparlera, parce que dans le cadre d'une UE qu'on organisait à une certaine époque, elle intervenait sur ces questions, elle posait le cas notamment du chlordécone, qui pose de graves questions en Guadeloupe par rapport à son utilisation. C'est un POP, le chlordécone, hein, un POP assez violent, parce que lui, c'est durée de vie dans le sol énorme. On a des questions, évidemment, au-delà de l'aspect scientifique, qui sont posées par ces polluants organiques persistants. Des questions sociétales, des questions de production, de manufacture, de consommation, ça implique les citoyens, ça implique les industriels, les consommateurs, les politiques. Ce n'est pas des décisions qui ne doivent revenir qu'aux seuls scientifiques. Les scientifiques doivent donner un avis, mais évidemment, eh bien, à travers ça, il faut qu'il y ait un vrai dialogue au sein des sociétés pour pouvoir légiférer sur ces polluants. Et parfois, ce n'est pas simple de légiférer sur des polluants qu'on ne choisit pas de produire, comme la dioxine, ou des polluants qu'on choisit de produire, qu'on interdit, mais qui sont encore présents dans notre environnement et qu'on n'arrive pas vraiment à gérer parce qu'ils sont, voilà, on va dire, présents, mais du coup, devenus ingérables. Alors, d'où parfois le fait de travailler sur le long terme, c'est parfois très important. Alors, nous, sur le plan expérimental, on se pose tout un tas de questions. C'est notamment la question de l'inflammation du tissu adipeux, puisque je vous ai montré des problématiques d'inflammation au niveau hépatique. La problématique de l'inflammation du tissu adipeux pourrait expliquer en partie certains effets, notamment la résistance vis-à-vis de l'insuline et des formes de diabète de type 2. On se pose de plus en plus de questions sur le lien entre POP, microbiote et obésité, et puis microbiote et maladies neurodégénératives aussi. On se pose de plus en plus la question des mélanges et des contextes, ça je vous l'ai illustré. Et actuellement, on a une étude en cours, alors on a l'étude est finie en fait, le papier en cours de rédaction, sur le rôle du relargage des polluants par le tissu adipeux. C'est des aspects qui sont très peu étudiés, on étudie beaucoup l'exposition, mais assez peu l'exposition par soi-même. C'est-à-dire comment est-ce que notre tissu adipeux relargue ses polluants. Donc nous, on a un modèle de greffe de tissu adipeux qui nous permet de faire ces études actuellement. Et c'est des études donc de relargage continu. Bon, je voudrais remercier toutes les personnes de mon équipe qui ont participé à ces études. Stéphane Pierre, que tu connais, Aline Chevalier, Robert Barouki, Martina Garbeck, avec qui on a mené l'étude contextuelle. Les financeurs, la NR-Linca, l'ARC, l'ANSES, l'INSERM, l'Université Paris-Descartes. Et puis évidemment toute l'organisation. Alors j'ai oublié certaines personnes parce que j'étais pas, voilà, je ne savais pas qui, tous ceux qui intervenaient. Mais un vif remerciement à vous pour cette invitation. Je suis très content d'être ici et je serai très content de répondre à vos questions.
C'est
comme ça que ça fonctionne.
fonctionne. Oui, bon, c'est à propos de l'agent orange et la, donc la, fortement contaminé par la dioxine. Il se trouve que je reviens du Vietnam, que la contamination par la dioxine est encore extrêmement présente, en particulier dans les sols. Donc au Vietnam, il y a une très forte production de riz qui va, ce n'est pas seulement pour la population locale, mais aussi pour l'exportation. Et une très forte production de crevettes qui est, elle, exclusivement pour l'exportation. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de contamination? Est-ce que vous avez vu ça de près? Parce que c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert, hein, puisque là, vraiment, la contamination était terrible. D'ailleurs, avec des effets sur la population qui a été terrible, sur les enfants en particulier, à travers la contamination des femmes enceintes, et qui persiste actuellement, d'après ce qu'on nous a dit là-bas. Hein.
Donc, j'étais au Vietnam, voilà, effectivement, en 2008.
Est-ce qu'on sait quelque chose, et je me tourne aussi vers l'agronome, de cette possibilité de contamination avec ces polluants persistants? C'est le problème aussi du chlordécone. Donc après des années et des années sur les végétaux et aussi donc, dans la filière animale.
Ben moi, je connais assez peu le domaine parce que c'est le domaine de l'expologie, c'est vraiment pas le mien. J'étais effectivement au Vietnam et c'est absolument incroyable de voir à quel point la population est mentalement imprégnée de ça. Ils savent qu'ils sont imprégnés. Il y a énormément d'enfants qui ont effectivement des malformations. D'ailleurs, on le voit sur les routes quand on se balade. On s'arrête à des endroits, effectivement, et c'est des endroits où ils vendent tout un tas de machins, de bricoles, de produits artisanaux. Et c'est souvent des gens qui ont été contaminés, qui travaillent là-dedans. C'est des gens qui ont subi ces effets de la dioxine, en tout cas en termes de malformations. Alors, c'est pas que la dioxine, c'est aussi l'agent orange en général, parce qu'on oublie toujours. Pour ce qui est des crevettes et du riz, je ne sais pas d'ailleurs comment sont effectués les contrôles pour les produits qui sont importés. C'est une vraie question. C'est pas des aspects sur lesquels moi je travaille directement, mais c'est clair que ça peut être un problème. Alors pour le riz, je ne sais pas, parce que la dioxine aura plutôt tendance à se stocker quand même dans les corps gras, mais pour les crevettes, ça paraît évident que ça peut poser un problème. Ça peut poser un problème. Donc je ne sais pas comment sont effectuées effectivement les vérifications et mais c'est une vraie question. Alors souvent les crevettes roses, moi je les vois sur les étalages, c'est souvent Madagascar. J'ai jamais vu Vietnam. Voilà. Alors c'est peut-être. Ouais. Bah oui. C'est une vraie question.
J'avais une question sur votre modèle, effectivement. Oui. Modèle rongeur, de stéatose hépatique. En fait, on est sur une stéatose hépatique.
Ouais.
Est-ce que c'est un modèle qui est extrapolable chez l'homme? Ma question, on a en pathologie humaine ce qu'on appelle effectivement le syndrome métabolique qui peut, sur certains aspects, développer, arriver à ce type de stéatose hépatique. Et la question que je me pose, pour ça c'est un modèle qui est assez connu, on sait qu'il y a un syndrome métabolique qui est en cause. Mais par contre, par rapport à cette exposition et par rapport au fait justement de la durée potentielle et du rôle que peut avoir le tissu adipocytaire, la prise en charge de situations analogues chez les patients peut poser un problème. Le traitement potentiel étant une transplantation, si on transplante ces patients, ils gardent leur exposition. Donc ça veut dire que quelle est finalement la solution thérapeutique derrière?
Alors, j'en ai pas de solution thérapeutique comme ça. Par contre, ce que vous dites est vraiment important, parce que c'est vrai qu'on a un modèle. Là, on est dans le cadre d'un modèle de rongeur. La question est de se dire, est-ce que c'est transposable à l'homme? Pour répondre déjà à cette question-là, si vous prenez le récepteur, qui est le récepteur AHR, c'est un récepteur de polluants qui détecte la dioxine, il est 10 fois plus affin chez la souris que chez l'homme, pour ce qui est de la dioxine. Pas d'autres types de ligands, mais bon, en tout cas. Et donc, les souris, on a tendance à dire qu'elles sont plus sensibles que l'homme. Néanmoins, quand on considère la demi-vie de la dioxine entre homme et souris, entre un mâle souris et un mâle homme, 21 jours chez la souris, 7 ans chez l'homme. Donc on n'a pas du tout les mêmes pharmacocinétiques d'accumulation. Et le foie est un organe qui est très gras, même si bon, on peut obtenir des foies gras, mais le foie, à l'origine déjà, il est gras. Et donc il peut y avoir, en partie en tout cas, un stockage de dioxine aussi au niveau hépatique. En tout cas, nous, on le constate lorsqu'on fait des injections, c'est dans le foie que ça va avant même d'aller dans le tissu adipeux. C'est lié à d'autres phénomènes. Donc, je dirais la transposition à l'homme, elle se pose par rapport au fait que ce n'est pas les mêmes niveaux de sensibilité, mais ce n'est pas non plus les mêmes niveaux d'accumulation. L'accumulation est beaucoup plus importante chez l'homme. Alors peut-être que le foie est en partie protégé parce qu'au bout d'un moment, la dioxine s'accumule dans le tissu adipeux, mais il y a toute cette problématique de relargage dont je parlais. Quant après à poser la question de la transplantation hépatique, j'avoue que moi, je ne me suis pas spécialement pour l'instant posé cette question-là, parce que je pense que quand une personne a besoin d'une transplantation hépatique et qu'on peut faire la transplantation, ben voilà, on l'a fait de toute façon, parce que sinon la personne... voilà, sûrement un taux de survie qui est, enfin pas un taux de survie, mais un niveau de survie qui est assez peu élevé, quoi. C'est comme lorsque une personne est obèse et morbide, on sait que lorsqu'elle va perdre beaucoup de poids, elle va relarguer beaucoup de polluants dans le sang, mais ça va quand même améliorer sa situation. C'est d'ailleurs des études qu'on a menées. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde des obèses à qui on fait perdre du poids, ceux qui perdent le plus de polluants au moment de l'amaigrissement sont ceux qui améliorent le moins bien leurs paramètres métaboliques, par contre. Voilà, sauf la sensibilité à l'insuline. La sensibilité à l'insuline est mieux améliorée chez des gens qui relarguent mieux les polluants. Donc voilà, pour présenter le tableau, ce n'est pas toujours blanc et noir en plus. Nous, il n'y a pas si longtemps, on a mené d'ailleurs des études en termes d'association de polluants et de métastases. On voit qu'il y a des polluants qui sont très pro-métastatiques et d'autres qui sont anti-métastatiques. Donc voilà, ce n'est pas encore publié non plus, mais bon, on travaille là-dessus. Je ne réponds pas complètement à la question, je suis désolé, parce que je suis très dans la mécanistique, mais c'est typiquement des questions extrêmement importantes, et c'est important d'ailleurs que les questions soient exposées à la société pour que les gens réfléchissent à ça. Quoi. Oui.
Rappel, les dioxines étaient, l'agent orange était fabriqué, si j'ai bonne mémoire, par Monsanto.
Entre autres.
Donc, Dow Chemical qui s'est rebaptisé depuis. On peut s'interroger sur des industriels qui doivent connaître les effets ou qui les voient en tout cas maintenant et qui continuent de vendre des pesticides qui, selon l'Union européenne hier, a dit que c'était pas si embêtant que ça que d'utiliser du Roundup. Je constate qu'on est sur un engrenage, un espèce de cercle vicieux. On veut une alimentation moins chère, donc elle est souvent riche en lipides. Quand on consomme des lipides, on a tendance à prendre du poids. Et ça s'accumule dans les cellules. Et les polluants se fixent surtout dans les matières grasses. Quand on prend du surpoids, on fait un régime, on perd un peu d'argent, on perd un peu de poids éventuellement. Cette perte de poids engendre la migration des POPs, entre autres, dans le sang. Mmh. Donc on a des problèmes de santé. Et donc après, on va médicaliser. Jusqu'à quand, quoi ? Donc c'est vrai que là, par rapport à l'exemple des bananes
Mais là, on est typiquement sur long terme et court terme. Ce que vous dites, c'est long terme et court terme. C'est-à-dire que, alors c'est aussi des questions sociétales, hein, c'est parce qu'au bout d'un moment, vous allez aux États-Unis, vous allez dans un supermarché, ce qui est le moins cher, c'est les pizzas, hein, c'est pas le céleri ou les betteraves, hein, d'accord ? Donc typiquement, la question est, moi je pense, hein, c'est la question sociétale, oui. Moins j'ai d'argent pour pouvoir, sur quoi est-ce que je fais des économies ? Sur ce qui est le plus visible, donc c'est facile de faire plus facilement des économies sur l'alimentation, mais effectivement on va être amené à consommer des produits dans lesquels il y aura plus de gras, plus de sucre, plus de sel, etc. Et puis au bout d'un moment, au bout de 20 ou 25 ans, au long terme, on développe des pathologies, et donc ça touche la sécurité sociale. Enfin, c'est comme vous dites, c'est un engrenage. Donc je pense que, moi je trouve que ce qui est positif depuis quelques années, c'est qu'on a quand même le sentiment qu'au niveau sociétal et aussi au niveau politique, tout bord confondu, il y a une prise de conscience. De là à dire que c'est déjà passé dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Je dirais quand même qu'en France, sur certains aspects, enfin je sais pas, je suis pas spécialiste, mais on est parfois un peu plus dur que certains autres pays en Europe, parce que la législation française parfois en impose un peu plus. Donc on n'est pas les moins bien lotis, il y a encore beaucoup de progrès à faire, et moi je suis d'accord avec vous. Moi je vais acheter mes produits sur le marché, j'essaie de cuisiner, j'essaie d'acheter le moins possible de trucs en boîte, etc. Mais pour certaines personnes, je pense que c'est pas facile, parce qu'ils ne sont pas aidés par rapport à ça. Il y a une certaine époque, les gens mettaient 80% de leur budget dans l'alimentation. Maintenant, c'est 10 ou 15%, parce qu'on veut acheter on veut acheter 15 chemises dans l'année. Enfin, en tant que citoyen, moi, je suis d'accord avec vous. Et puis des smartphones, etc. Mais on en a tous. Et puis des coques de smartphones. Enfin, bon, voilà. Et puis qui contiennent des polluants aussi. Comment ? Oui, ben voilà. Mais voilà, qui n'ont pas les moyens. Donc c'est une vraie question sociétale. La question, c'est de celle, qu'est-ce qu'on fait de notre budget personnel, oui. Mais parfois, il y a certaines personnes, elles n'ont pas beaucoup le choix. Oui, quoi. Ceux qui vivent avec 600 euros par mois, parfois, oui. C'est pas simple de faire des choix.
On avait organisé une journée d'études sur l'alimentation où une sociologue avait interviewé des gens et en fait, Il y avait aussi le fait de répondre à une publicité. Ça veut dire que des gamins qui voient une publicité à la télé, acheter tel produit, ils veulent l'acheter, même si les parents savent.
C'est la pression sociétale.
Et puis le problème qui est posé aussi de l'accès, voilà, je pense que le problème de l'accès c'est important, mais ça, c'est aussi un problème culturel d'éducation maintenant à l'école.
Exactement.
Des choses vont changer.
Sur l'éducation, je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a, enfin, pour ma part, il n'y a pas assez de biologie à l'école. On n'explique pas assez ce que c'est que le cycle de l'eau, ce que c'est le cycle de l'air. Voilà, comment sont produits tel ou tel produit. Toutes ces questions-là ne sont pas suffisamment, de mon point de vue, abordées. En tout cas, à mon époque, en tout cas, on ne l'abordait pas du tout. On abordait des trucs très, très abscons, que j'aimais bien par ailleurs, parce que c'était de la théorie sympathique. Mais, bon. Une autre
question. Oui, bonjour. Oui. Du coup, ma question a vraiment un lien avec ce qu'on vient de dire. Donc, moi, je m'appelle Christophe Malvaux, je travaille pour l'IREPS Poitou-Charentes. Oui. Et avec le réseau Graines, on gère un logement santé-environnement, oui. Un logement pédagogique où on fait des actions de sensibilisation sur les thématiques santé-environnement. Et où on aborde évidemment les polluants environnementaux avec du grand public. Et donc c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder parce qu'on a des notions un peu floues et beaucoup d'inquiétudes, etc. Oui, et du coup j'ai une question par rapport à l'argumentaire qu'on peut développer, c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer l'effet cocktail, donc ça va à peu près, mais l'effet dose est très compliqué à expliquer parce qu'il n'est pas logique en fait. Et là vous avez avancé un argument qui m'intéresse bien, le fait de dire que si une faible dose peut être moins nocive pour l'organisme qu'une forte dose, c'est peut-être parce que l'organisme en fait ne la détecte pas ou pas assez pour qu'il puisse réagir.
L'inverse, la faible dose peut avoir un effet parce que vous avez dit l'inverse en fait. Ah c'est oui. Pas grave, j'ai compris. Mais
voilà. Oui, j'ai toujours du mal. Et je voulais savoir,
c'est une hypothèse.
Est-ce que c'est une hypothèse? Est-ce qu'on peut l'avancer comme un argument
vous
scientifique
ou... Puisque c'est une hypothèse, vous pouvez l'avancer. D'accord. Vous pouvez dire, c'est pas encore prouvé, mais il y a un certain nombre de personnes qui pensent que effectivement, un peu loin à une certaine dose peut être détecté, mais en dessous de cette dose-là n'est plus détecté, et du coup peut avoir des effets entre guillemets pernicieux.
D'accord.
Il y a une autre explication aussi que je donne à ces effets non monotones, c'est que, surtout pour les perturbateurs endocriniens, donc à forte dose, il y a des effets de toxicité non spécifiques. À faible dose, il y a des compétitions qui vont se faire avec, au niveau d'action des hormones, en fait, hein, et avec donc des compétitions avec les récepteurs, et donc pas les mêmes effets, bien sûr, que les hormones, et du coup, ça peut donc provoquer des perturbations endocriniennes dont, et de la toxicité. Et ce ne sont pas du tout les mêmes effets. C'est une autre aussi. Ouais.
Vous pouvez aussi imaginer qu'à forte dose, vous activez une voie de signalisation A, B, C, que la cellule meurt et que le tissu se régénère. Ouais. Vous voyez, et que du coup, c'est régénéré. Mais vous pouvez imaginer qu'à faible dose, vous n'activez pas A, B et C, vous activez que A. Et du coup, la cellule ne meurt pas, mais est toujours dans une voie qui est un petit peu, vous voyez, qu'elle est plus ou moins obligée de gérer, entre guillemets. Vous voyez, ça peut, vous pouvez aussi utiliser ça. Dernière question, là ? Ok.
Moi, c'était pour revenir sur l'exemple de la dioxine dont on a parlé tout à l'heure par rapport à la nutrition animale. Donc, normalement, c'était très contrôlé. Normalement, il n'y a pas de dioxine. Mais vous avez su qu'il y avait quelques cas en France, le poulet en particulier, ouais. Il y a quelques années. Alors, on peut dire que pour les dioxines, il y a deux cas. Alors, soit il y a des fraudes volontaires, mais qui sont maintenant très réprimées. Les fraudes volontaires, ça va, par exemple, être d'utiliser des huiles qu'il y a dans les transformateurs. Ouais. Huiles minérales qui vont chauffer et donc qui vont former de la dioxine. Donc ça, en France, c'est maintenant strictement contrôlé. Je ne pense pas qu'en Afrique, ça soit très contrôlé. Et on sait qu'il y a encore des circuits qui éliminent comme ça l'huile. Et donc, ça se retrouve dans l'élevage de ces animaux.
Le poulet, c'était l'huile de moteur. Moi, j'avais
oui, envie, attends, ça, c'est, je parle de la fraude volontaire. Donc, à partir de ça, oui. Et en Chine aussi, c'est pareil. Il y a des circuits qui ne sont vraiment pas très nets. Donc, on revient au Vietnam et tous ces pays-là. Et puis, alors, il y a les fraudes involontaires qui partent d'un bon principe. C'est ce qui s'est passé pour la volaille. C'est nos amis belges qui, vous savez, consomment beaucoup de frites. Et là-bas, ils récupèrent les huiles de friture ménagères et en même temps, ils récupèrent les huiles de vidange de voiture. Et donc, il y a des bacs qui sont les uns à côté des autres. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un coup, il y a eu des huiles de voiture, les bacs étaient pleins. Donc, les gens ont mis dans les huiles ménagères. Alors, ces huiles ménagères, traditionnellement, sont recyclées pour l'alimentation animale. Hein, ça, faut le savoir, toutes ces graisses, même en France, hein, les McDo, tout ça, ça va en Belgique et c'est recyclé pour l'alimentation animale. Mais il y a eu des contrôles, quoi, ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait de l'huile minérale dedans, donc c'est pour ça qu'ils...
Ils recyclent, mais ils posent des questions sur les oxydations d'huile, etc.
Tout à fait. Elles sont raffinées de nouveau, elles sont pures. Il y a un degré, ça s'appelle les graisses 15, on n'a pas le droit surtout d'avoir plus de 15% d'acidité de l'huile. Parce que quand il n'y a pas les triglycérides, vous savez, ils sont nettement moins, sous forme d'acide gras libre, ils sont nettement moins absorbés. Donc maintenant, c'est très contrôlé. Alors, on peut penser que ce genre de choses ne reviendra plus. Alors, sauf des cas de fraude, mais encore une fois, pour moi, la fraude, c'est accidentel maintenant, quoi.
Merci, monsieur. Donc, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Donc, on fait une pause de 10 minutes et puis on reprend. Vous pouvez laisser vos affaires dans la salle. Il y a une petite exposition d'ouvrages aussi sur le thème, faite par notre documentaliste. À tout à l'heure. Merci à tous.
Continuer la matinée avec donc un aspect aussi extrêmement intéressant qui concerne donc l'impact des nanotechnologies sur la santé. Comme je disais un petit peu au départ, c'est un sujet aujourd'hui extrêmement important, très récent et qui nous concerne à plusieurs niveaux et qui concerne aussi d'ailleurs les pouvoirs publics avec de plus en plus des questions qui sont posées. Pour nous parler de cela, nous avons Francine Marano, donc, et nous sommes vraiment ravis de l'accueillir pour aborder ce problème. Merci.
Merci, et je suis ravie d'être ici également. Oui, donc j'y suis venue, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a un peu plus d'un an et demi, invitée par FNE, hein, et la section Vienne Nature, c'est ça, Vienne Nature, voilà. Qui est une des... Et donc c'était pour parler, là, c'était des particules diesel. Hein. Oui, au moment du dieselgate, qui n'est toujours pas terminé, hein, puisqu'on voit qu'il est au contraire en train de s'étendre à d'autres. Donc ça se... Voilà, oui, ça commence à faire. Alors cette fois-ci, donc, j'ai parlé d'autre chose qui est aussi important. Quoique les particules diesel, ce sont des nanoparticules à l'origine, hein, mais je ne vais pas évoquer spécifiquement ces nanoparticules. Ici, vous en voyez des nanoparticules. Alors, il ne faut pas que je me trompe là, sur là. Comment est-ce que...
Alors, le pointeur, c'est voilà, le petit bouton.
Là, je vois pas le rouge. Là. Voilà. Ah oui, mais alors du coup, ça me fait bouger tout en même temps. Oui, il faut que je revienne. Voilà, ouais, il faut que je fasse attention. Là, vous en voyez des nanoparticules. Hein. C'est observé au microscope à champ proche ou à effet tunnel. Hein. C'est les technologies qui ont été développées par les physiciens pour observer ces nano-objets. Ici, sont des fullerènes, c'est-à-dire des nanoparticules constituées d'atomes de carbone qui s'organisent en espèces de sphères très, très régulières. On a l'impression de ballons de football. Hein. Et donc, ceux qui ont étudié et observé ces fullerènes ont obtenu le prix Nobel il y a plus de 25-30 ans. Et c'est à partir d'ailleurs de toutes ces recherches des physiciens et des nanos et que, en fait, les nanosciences, puis ensuite les nanotechnologies se sont développées dans les 30 dernières années. Et les toxicologues ont commencé à s'intéresser à ça beaucoup plus récemment, c'est-à-dire il y a, bon, je dirais, une grosse dizaine d'années, 10-15 ans, hein, maximum, alors que c'était déjà rentré dans les développements industriels de façon tout à fait importante. Alors, en fait... On baigne dans une atmosphère qui contient des nanoparticules depuis que l'homme est sur la Terre. Il faut avoir conscience de ça. Et en particulier, bon, il y a des nanoparticules naturelles qui viennent des feux de forêt, des volcans, les particules secondaires atmosphériques aussi qui sont formées à partir des composés organiques volatiles dont certains sont d'origine naturelle. Par exemple, il y a des terpènes qui peuvent être aussi à l'origine de ces particules. Tout ça, c'est pour une fraction, en tout cas, de taille nanométrique. Et puis, il y a celles qui sont non intentionnelles. On parlait des particules diesel. Il y a les incinérateurs qui peuvent en produire, les avions, les émissions venant des avions, les chauffages urbains. Donc, il y a beaucoup de sources diverses. Alors celle-là, on travaille dessus depuis longtemps, nous, les toxicologues, et on connaît leurs effets. Et c'est sans doute à partir des connaissances acquises depuis plus de 60 ans, je dirais à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, sur les nanoparticules, et particules ultra fines, c'est comme ça qu'on les appelle, naturelles ou surtout non intentionnelles, qui forment ce qu'on appelle la pollution atmosphérique particulière, que la question en fait des nanoparticules intentionnelles a commencé à se poser. C'est venu de là, hein, donc vraiment de la recherche qui s'était accumulée pendant toute cette période, à la fin, après les premiers signes des effets de la pollution atmosphérique particulière sur la santé, que on a commencé à se poser cette question des particules donc en milieu industriel et leur utilisation. Alors donc c'est celle qu'on appelle nanoparticules intentionnelles. Et donc ces nanoparticules intentionnelles, à partir du moment où on s'est posé la question de leurs effets sur la santé, du fait qu'elles étaient utilisées, on va le voir de façon très très large. Eh bien, il a fallu les définir. Et j'aime bien démarrer par cette définition parce qu'elle permet ensuite de comprendre où se posent les problèmes, en particulier au niveau du lobbying entre d'un côté les industriels et de l'autre côté les associations qui jouent actuellement un rôle très important dans le combat pour faire en sorte que le consommateur, mais pas seulement le travailleur aussi, soit protégé au maximum. Alors, la définition de la communauté européenne sur les nanoparticules, qui a été l'objet de très nombreuses discussions et débats, donc tu vois, là, j'ai un problème, voilà. Eh bien, c'est la suivante. Nanomatériaux, c'est un matériau contenant des particules libres sous forme d'agrégats ou sous forme d'agglomérats dont au moins 50% des particules sont dans la répartition numérique par taille et présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nanomètre et 100 nanomètres. Donc une définition qui se fonde uniquement sur la taille. Il faut qu'il y ait au moins dans la poudre 50% de particules qui se situent dans entre 1 et 100 nanomètres. On ne considère pas ce qu'il y a au-dessus, on ne considère pas ce qu'il y a au-dessous des 50%, hein, au-dessus en niveau de la taille. C'est très très pratique pour les industriels. Ils ont joué énormément sur cette définition. Ils jouent toujours sur cette définition pour dire ben non, il y a circulé, il y a rien à voir, il y a pas de nanoparticules parce que bon, elles vont se trouver au-dessus des 100 nanomètres et leur pourcentage se trouve en dessous des 50%. Et ça, c'est toute la discussion qu'il y a actuellement au niveau européen pour changer la définition. Et au niveau de l'agroalimentaire, pour ne pas le nommer, de l'industrie, donc agroalimentaire qui utilise des poudres et qui dit mais on n'a pas de nanoparticules dans ces poudres parce qu'elles se trouvent justement hors cette définition. Alors, maintenant, on va venir un peu au niveau plus scientifique de ce que sont ces nanoparticules, leur utilisation. Alors, une idée des dimensions, parce que pour le public, c'est difficile de se rendre compte de ce que c'est que ces particules. Qu'est-ce que ça veut dire, nanomètre? En fait, un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Hein. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement petit. Et si on se révèle à l'échelle du vivant, vous voyez qu'un nanomètre, eh bien... Alors, attends, il faut que je... Voilà. Un nanomètre, entre 1 et 100 nanomètres, donc le nanomonde, eh bien, on se situe, en fait, à peu près à l'échelle de certains virus, hein, donc 70 nanomètres. Vous voyez qu'une bactérie, un micron, c'est un facteur 10, hein, et un cheveu, 50 microns, c'est... Voilà. Donc là, on se situe vraiment à l'échelle des macromolécules biologiques. Hein. Le diamètre de l'ADN, on en parle ici, vous évoquez beaucoup l'ADN, hein. 2 nanomètres. Une protéine, c'est quelques nanomètres également. Par contre, On n'est pas au niveau des atomes, hein, qui sont, donc, puisque en fait les nanoparticules sont constituées, ce sont des assemblages d'atomes. Il faut avoir ça en tête. Souvent, il y a des mélanges entre atomes, molécules, nanoparticules. Une nanoparticule, c'est un assemblage plus ou moins complexe d'atomes. Alors, à cette échelle-là, et ce sont les physiciens, donc au cours des 50-60 dernières années, qui ont mis ça en avant, il y a des propriétés tout à fait particulières. C'est pour ça que c'est intéressant pour les industriels, et qui tiennent au fait que plus on subdivise la matière, et plus les contacts de surface deviennent importants. Et là, vous voyez, par exemple, pour de la silice alimentaire, la silice colloïdale, eh bien, pour un gramme de silice, on a une surface de contact avec l'environnement, une surface de contact qui est celle de la surface d'un terrain de tennis aux alentours de 190 mètres carrés. Donc, plus on descend dans la fragmentation de la matière, plus le contact est important. C'est ça qui, en fait, va donc déterminer les propriétés spécifiques des nanoparticules. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on change donc au niveau de la physique, on passe à de la physique quantique, en fait, quant aux réactions. Je serais bien incapable de vous expliquer, d'ailleurs, comment on peut... ce qui fait qu'il y a ce changement de nature physique, mais ça veut dire qu'on va trouver des propriétés mécaniques qui vont être particulièrement intéressantes, de la superplasticité, de modification de viscosité des fluides, des effets de surface, bien sûr, adhésion, mouillabilité, de sorte qu'on utilise ces nanoparticules dans le BTP pour faire des ciments qui ne soient pas mouillables ou des verres non mouillables, des ciments qui vont éviter aussi l'accrochage des mousses et des lichens, enfin, etc. Donc il y a des applications extrêmement intéressantes d'un point de vue, industriel. Et puis, bien sûr, aussi des propriétés électriques et mécaniques, magnétiques et aussi mécaniques tout à fait intéressantes, par exemple pour les nanotubes de carbone, qui ont une résistance à l'étirement, une capacité de transmettre aussi l'électricité qui fait que on les utilise de plus en plus dans des alliages et l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, etc. Toutes les applications aussi en électronique, bien sûr, pour arriver dans les smartphones, par exemple, ou dans les ordinateurs, à miniaturiser au plus haut point. Donc là, des applications qu'on comprend et qui sont allées directement des recherches de nanosciences, des laboratoires de physique et de chimie, hein, vers l'industrie, sans passer par l'approche environnementale, l'approche évaluation de risque. Et c'est ce qu'on peut évoquer d'un point de vue, ensuite pour le futur, essayer de faire en sorte que quand de nouvelles technologies comme celle-là sont introduites dans la société, il y ait dès l'introduction aussi qu'on pense aux impacts environnementaux, aux impacts sanitaires sociétal, bien sûr, l'acceptabilité sociétale. Là, dans ce cas des nanotechnologies, c'est vraiment caractéristique de cela. Alors, en fait, il y a une très grande diversité de nanoparticules. Il y a des nanocristaux, des nanotubes, des nanofeuillets, etc., et qui ont des usages extrêmement nombreux. Vous en avez quelques-uns ici qui sont présentés. Alors, dans l'organisme qui est l'équivalent de l'ANSES en Grande-Bretagne, avait déjà, il y a quelques années, répertorié, à partir d'un site que je vous conseille d'aller voir, hein, qui est un site américain. Je crois qu'il commence à avoir beaucoup de soucis aussi de financement, hein, là, en ce moment, sur toutes ces choses-là, il y a problème. Quoique c'est un site qui a un financement de fondation, Nanotech Project, et où il y a un inventaire uniquement sur le déclaratif des industriels de la présence de nanomatériaux dans les objets. Et vous voyez ce qui est intéressant, donc sur le nombre d'objets, hein, c'est pas en, la quantité là, de nanomatériaux, mais le nombre d'objets qui disent contenir des nanomatériaux, eh bien vous avez de produits, 60% en fait ce sont des cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle donc qui qu'on utilise aussi tous les jours, hein. Et alors il y a bien sûr peinture, lubrifiant, je ne vais pas tout détailler, et il y a aussi tout ce qui concerne l'alimentation. Alors, bien que l'industrie agroalimentaire continue à dire que, bon, en fait, non, il n'y a pas de nanomatériaux pour les raisons que je viens d'évoquer. Ça commence à bouger, hein, malgré tout. Mais là, vous voyez, on va en trouver dans l'alimentation et aussi dans le packaging, hein. Et bon, bien sûr, dans toutes les autres applications qui, sur le plan sanitaire, posent sans doute moins de problèmes, sauf dans le cadre du cycle de vie de ces matériaux. Alors, il y a donc aussi les applications en médecine. Novel food, beaucoup de ces nouveaux développements donc dans l'alimentaire comportent l'utilisation de nanomatériaux, par exemple pour essayer de faire en sorte de détecter des contaminations si on met des nanomatériaux dans des emballages. On peut espérer ou bien une meilleure conservation, c'est le cas du nano-argent, ou bien par des changements de couleur, par exemple, on peut espérer pouvoir détecter disons une contamination, par exemple, par des bactéries de ces aliments. Il y a sans doute des applications qui peuvent être intéressantes, hein. Il y a aussi le fait de pouvoir conserver avec des nanonutriments des vitamines, enfin des compléments alimentaires plus longtemps leur maintien dans le tube digestif, le transfert dans le tube digestif, permettant d'arriver jusqu'à la zone de transfert peut-être plus persistante, hein, sans qu'on sache d'ailleurs finalement ce que ça va pouvoir donner ensuite pour ces nanomatériaux. On va le voir, et c'est là que se pose d'ailleurs le problème. Alors, quels sont ces principaux matériaux qu'on va retrouver dans tous ces produits? Tout d'abord, de l'argent, pas en termes de quantité, mais en termes de produits dans lesquels on trouve du nano-argent. Hein. Et vous voyez l'évolution au cours du temps, hein, entre 2006 et 2013, toujours à partir de ces données du site américain. On voit l'augmentation extrêmement rapide. Nanocarbone, alors là, on en trouve dans les tonnerres, dans les imprimantes. On est tous confrontés à cela, hein, bien évidemment, hein. Dans les imprimantes associées aux ordinateurs, par exemple, nanotitane, dioxyde de titane, qui pose, et j'en parlerai tout à l'heure, vraiment des problèmes très importants parce qu'on le trouve en cosmétologie, alors là, de façon tout à fait importante, et surtout actuellement, c'est la problématique actuelle, dans l'alimentaire, hein. Nanosilice, surtout dans l'alimentaire et en cosmétologie aussi. Et ici, dioxyde de zinc, surtout la cosméto, or, nanoparticules d'or, enfin, etc. Il y a une très grande variété de particules, et les chimistes sont incroyables sur leur capacité à en faire de nouvelles, avec sans doute des améliorations, de l'intérêt aussi autour de cela. Les principales applications, on les a déjà un petit peu vues, mais vous voyez l'augmentation au cours du temps de ces applications, donc la santé et soins corporels, maison et jardin, ça c'était très étonnant, et on verra que l'ANSES a retrouvé aussi dans les déclarations qu'ils ont obtenues ces derniers temps cela, les jardins et l'agrochimie, hein. Bien sûr, automobile, etc. Produits pour enfants. Des traitements qui venaient de Chine, de peluches avec du nano-argent, par exemple, ou d'autres types de nano, alors que les bébés sucent ces objets, donc de sorte qu'on a demandé que tout cela, ça soit vraiment contrôlé sérieusement. Voilà. Alors, je vais commencer pour vous montrer un peu toutes ces applications, parce qu'il est présenté comme le positif pour les aspects santé de ces nanotechnologies. donc les applications en nanomédecine, les applications actuelles déjà, et puis donc moi ce que j'appelle encore un peu de la science-fiction, c'est-à-dire l'homme réparé, l'homme augmenté. Et Dieu sait si sur le plan éthique, on peut se poser beaucoup de questions. Alors, les applications qui ont été présentées dès le départ pour la nanomédecine, c'est celles que vous voyez ici, hein, en chimiothérapie anticancéreuse. On sait très bien quels sont les impacts de la chimiothérapie classique sur les cellules qui ne sont pas cibles, hein, et en particulier sur les cellules sanguines, hein, et les cellules souches des cellules sanguines. Donc, ce qu'on espérait et ce qu'on espère toujours avec l'utilisation des nanotechnologies, enfin des nanomatériaux en chimiothérapie anticancéreuse, c'est donc ce que vous voyez ici. La matière active, la molécule active qui va cibler la cellule cancéreuse est encapsulée dans des nanoparticules. On va associer à ces nanoparticules, décidément, tu vois, j'ai moins l'habitude que toi de ton oui. Oui, c'est ça, voilà, oui. Oui. Il va falloir, s'il me faut 5-6 ans, là, ça va être un peu dur. Alors, oui. Alors, donc, on va y associer en surface des anticorps très spécifiques de la cellule cancéreuse, qui vont pouvoir ensuite reconnaître donc les récepteurs sur la cellule cancéreuse. Ensuite, les nanoparticules sont captées, vous verrez comment, dans la cellule cancéreuse. Elles libèrent leur matière active et elles tuent de façon spécifique la cellule cancéreuse. Sur le papier, c'est formidable. Dans la réalité, ça se passe moins bien. C'est malheureusement pas aussi efficace. Mais il y a encore beaucoup de travaux dans ce domaine et on peut espérer que ça puisse arriver à cela. Et donc, de façon plus générale, dans ce qu'on appelle le nano delivery system, c'est-à-dire donc utiliser ça plus généralement pour beaucoup de médicaments qui posent des effets secondaires. Donc, on va cibler l'organe cible. Ça peut être aussi, bon, par exemple, des antidiabétiques. Tout ça, on peut imaginer beaucoup de choses. Et ensuite, on va donc créer. Les nanos sont ensuite éliminés. Alors là, c'est là que se pose un problème. Est-ce qu'elles vont réellement être éliminées? Mais enfin, c'est ce qu'on espère. Et ensuite, donc on va cibler l'administration, donc réduire les doses, réduire les effets secondaires, réduire la toxicité du médicament. Et donc exposer, si possible, uniquement les organes cibles et éviter l'exposition des organes non cibles. Ça, c'est, donc je répète, la théorie. Beaucoup de recherches actuellement dans ce domaine, des médicaments qui sont déjà sur le marché pour certains, en particulier dans les applications en chimiothérapie, il y en a déjà. Il y a aussi tout ce qui concerne l'imagerie médicale. Alors, l'imagerie du petit animal, il y a déjà des applications importantes. Vous voyez ici sur la souris des nanoparticules fluorescentes qui permettent de faire des détections in situ, hein, donc sur des cellules vivantes. Hein, donc, c'est ce qui est formidable pour éviter d'utiliser, par exemple, beaucoup d'animaux dans certaines expériences. Et puis chez l'homme, là, c'est donc montré chez la souris, mais on l'utilise déjà chez l'homme. C'est commercialisé depuis quelques années par les laboratoires Gerbet, des nanoparticules d'oxyde de fer sont utilisées dans les investigations IRM et qui permettent d'avoir une vision beaucoup plus fine de lésions dans les organes, en particulier pour les détections de métastases cancéreuses ou de cancer à l'origine, donc tout à fait au départ. Donc là, il y a des implications qui sont intéressantes. Et puis, bon, tout ce qu'on imagine actuellement comme développement, alors c'est donc encore au niveau de la recherche, mais ça va certainement déboucher, c'est-à-dire des nanomachines qui vont prélever de petits échantillons qui pourront ensuite être détectés directement à partir de ces nanomachines chez un individu, transféré à un laboratoire par directement également Donc, ça, c'est la médecine personnalisée qu'on imagine dans le futur. Google est très impliqué dans ces développements-là. Vous avez un très gros centre, oui, en Californie, qui travaille avec beaucoup d'argent sur ces développements-là. Donc avec la télédétection, en fait, à partir de ces nanomachines. Et puis, l'homme connecté, alors ça, moi, je dis, il faut espérer que l'homme augmenté, surtout, avec tout ce qu'on peut imaginer. Il y a aussi des projets aux États-Unis de ce type, augmenter les performances d'un individu avec des nanomachines. Et ça, donc il y a tout un développement éthique qu'il faut prendre en considération. Beaucoup de débats chez les sociologues, les philosophes dans ce domaine de l'homme augmenté. Et donc ça, je n'irai pas plus loin là-dessus. Alors moi, je vais vous parler maintenant du volet plus sombre des choses, c'est-à-dire les expositions et ce qu'on sait actuellement donc des approches toxicologiques et en santé humaine. Alors on a vu, bon bien sûr, il y a l'exposition humaine dans le milieu de travail. Il y a de plus en plus de prise en considération de cela hein, dans les usines qui fabriquent des nanomatériaux. Les travailleurs sont en scaphandre. Le problème, hein, c'est la sous-traitance. Ça fait des années qu'on le dit hein, dans les groupes de travail qui évoque cela, c'est la sous-traitance. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez, donc, chez Arkema, par exemple, toute entreprise qui fabrique ces nanomatériaux pour ensuite des développements industriels, bien sûr, on sait qu'il faut prendre des précautions et on le fait. Mais ensuite, dans toutes les petites entreprises qui vont utiliser cela, très souvent, les travailleurs ne sont pas au courant que les poudres contiennent des nanomatériaux. Alors, les syndicats professionnels commencent à se poser des questions sur tout cela et demandent qu'il y ait des formations, qu'on fasse attention, justement, à cette question de la sous-traitance. Mais c'est une vraie préoccupation. Alors, vous avez également, bien sûr, le consommateur, hein, on vient de l'évoquer, et puis l'environnement. Il y a de plus en plus d'études, en particulier en France, il y a un gros centre, le CEREJ, à côté d'Aix-en-Provence, là, qui travaille sur ces questions-là, hein, et en association avec le CEA de Grenoble. Alors, pour l'homme, moi, je ne parlerai que des impacts sur la santé, hein. Les voies d'entrée des nanoparticules, bon, d'abord, bien sûr, la voie d'exposition qui a été la plus étudiée, c'est la voie par inhalation. Mais vous avez également l'entrée par la peau, puisque l'industrie cosmétique en utilise beaucoup, en particulier les crèmes solaires, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a beaucoup de crèmes qui contiennent des nanomatériaux. Par exemple, tous les rouges à lèvres contiennent des nanoparticules de silice, hein, tous. Hein. Les crèmes solaires, bien évidemment. Alors là, donc, dans ce cas, il y a un avantage, parce que les crèmes solaires qui contiennent du nanotitane ou du nanozinc, hein, donc, elles ne sont pas blanches, alors que quand on utilise sous forme de poudre de taille micrométrique dans ces crèmes, eh bien, en fait, elles sont toutes blanches, ce qui veut dire, bon, bien sûr, c'est un effet esthétique qui n'est pas terrible. Et donc, c'est pourquoi l'industrie cosmétique a utilisé ces nanomatériaux, parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces en tant que protection UV, à cause de leurs propriétés spécifiques que j'évoquais tout à l'heure. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais en fait, il y a effectivement la capacité d'absorption des UV qui est plus importante, donc une protection meilleure, c'est un bénéfice, ça c'est clair, mais également, donc du coup, plus facilement l'utilisation, et surtout, est-ce que ça passe la barrière cutanée, hein ? Alors, il y a eu pas mal d'études qui ont été réalisées par l'industrie cosmétique pour savoir ce qu'il en est, de ce passage. A priori, donc sur une peau saine, mais en sachant quand même que l'industrie cosmétique ne peut pas travailler sur l'animal, hein, puisque c'est interdit maintenant, c'est uniquement sur des tests vitro hein, qu'ils font ça, sur des peaux reconstituées, des peaux humaines d'ailleurs, reconstituées en laboratoire, qui représentent d'ailleurs très très bien donc la structure de la peau humaine. Mais bien sûr, ce sont des expériences de labo. Ou bien, il y a aussi des études qui sont faites directement chez des volontaires. Hein. Mais pour savoir le passage, c'est très difficile, là, par contre. Hein. Là, donc, c'est essentiellement... Il y a des études aussi qui ont été faites sur des pigs, enfin, des mini-pigs, hein, donc donc qui ont montré qu'a priori, il n'y avait pas de passage. Sauf si la peau est lésée. Alors, sur les peaux lésées... Si vous avez un coup de soleil et que vous mettez ensuite donc ce genre de crème, ça va passer. Et donc il y a des accumulations de nanoparticules dans les couches superficielles de la peau, malgré tout, hein, donc de l'épiderme. Et aussi, problème qu'il faut prendre en considération, à mon avis, dans les poils, à la base des poils, où se trouvent des cellules souches, et ensuite, que deviennent ces cellules souches? Ça, c'est une question que les industriels de la cosmétologie ne prennent pas en considération, et à ma connaissance, ils n'ont pas de réponse là-dessus. Et il y a la voie intestinale, bien sûr, qui devient de plus en plus importante et que j'évoquerai. Alors, pour l'appareil respiratoire, rapidement, des études ont montré que, justement, pour les particules... Les nanoparticules les plus petites, hein, eh bien, celles qui sont de l'ordre du nanomètre, elles se déposent, elles restent au niveau nasal. Elles ne descendent pas parce qu'elles n'ont pas de masse, en fait. Quasiment, c'est le mouvement brunien, elles vont rester au niveau nasal. Elles restent en suspension, alors elles rentrent, elles sortent, voilà. Elles restent à ce niveau-là. C'est les plus petites, celles aux alentours entre 1 et 10 nanomètres. Pour celles qui sont situées dans la gamme qui correspond, puisque à la définition, hein, entre 1 et ici 100 nanomètres, eh bien on va les retrouver se répartissant dans tout l'arbre trachéobronchial, et puis également au niveau alvéolaire. Donc la préoccupation, ça va être aussi donc finalement tout l'appareil respiratoire, mais on va voir que ça se situe quand même beaucoup au niveau alvéolaire. Alors pour la région nasale, il y a quand même un souci qu'on évoque actuellement pour les nanoparticules, enfin les particules ultra fines atmosphériques. C'est le passage via les nerfs olfactifs, donc par transport, rétrotransport, chose que le neurone sait très très bien faire, hein, le rétrotransport depuis la synapse, hein, enfin la terminaison nerveuse, pas la synapse, la terminaison nerveuse qui se trouve au niveau de l'épithélium nasal, et ensuite passage jusqu'au cerveau. Et donc, on n'a pas de données, donc je vais être là clair quand même, on n'a pas de données avec les nanoparticules intentionnelles actuellement de ce rétrotransport, sinon que ça a été utilisé par l'industrie pharmaceutique, justement, pour administrer des médicaments vers le cerveau. Hein, donc là, il y a cette possibilité. Par contre, pour les particules ultra fines atmosphériques, il y a actuellement des publications qui sortent sur la présence de particules ultra fines dans le cerveau de malades, enfin qui sont décédés, de maladies neurodégénératives à un âge, où normalement il n'y a pas ce type de maladie. Par exemple, maladie de Parkinson ou maladie d'Alzheimer. Et ça a été montré en particulier à Mexico, où la pollution atmosphérique est très importante. Hein. Alors pour le moment... on n'a pas de données encore suffisantes ailleurs, mais il est possible, c'est un domaine de recherche en développement. Alors, donc ça, c'est le passage qui pourrait se faire pour les particules les plus fines, donc au niveau nasal. Maintenant, au niveau des voies aériennes supérieures et inférieures, donc les bronches et les bronchioles, il faut avoir en tête qu'il y a un système de protection très efficace, c'est le mucus, hein, qui baigne ces voies aériennes, et où les particules sont captées. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, nous, la clairance mucociliaire, Donc c'est l'épithélium mucociliaire ici, avec les sécrétions de mucus par les cellules à mucus et les glandes aussi qui se trouvent en dessous. Ici, les cellules ciliées qui battent et qui font remonter en permanence le mucus. Donc si là, il n'y a pas un niveau de pollution trop important dans l'atmosphère, ça fonctionne très bien, sauf pour les personnes qui sont... qui ont des problèmes, les asthmatiques, les gens qui ont des bronchites chroniques, et puis bien sûr ceux qui sont atteints de mucoviscidose. Là, pour ceux-là, ça ne fonctionne pas bien, et les particules s'accumulent, et c'est là qu'elles vont avoir un effet. Alors, autre niveau, c'est le niveau alvéolaire, qui pose plus de problèmes, parce que autant l'élimination ici est rapide, autant ici, au niveau alvéolaire, quand les particules, c'est vrai, ça aussi pour les particules atmosphériques, hein, mais pour les nanoparticules intentionnelles, quand elles arrivent jusqu'au poumon profond, là, donc au niveau de l'alvéole, où se font les échanges, là, vous avez les macrophages alvéolaires qui vont les absorber, qui ont du mal avec les nanoparticules. Ils ont du mal, mais ils peuvent quand même les absorber. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi en faire, ils ne savent pas les digérer, et ça persiste. Et là, ça peut s'accumuler. Et ça peut surtout passer. Alors, ce qui se produit au niveau de ces voies aériennes supérieures en termes de réaction, c'est le résultat de travaux en particulier qu'on a réalisés au laboratoire, mais aussi dans beaucoup d'autres laboratoires dans le monde, hein, c'est que ces nanoparticules, en fonction d'ailleurs de leur composition, de la présence en surface d'un certain nombre d'éléments, parce qu'elles sont rarement, elles sont en général composites, hein, ces nanoparticules intentionnelles. Eh bien, quand elles pénètrent le mucus, elles vont produire, et ça c'est presque général, hein, aux nanoparticules, des radicaux libres en présence de l'oxygène qui est dissous ici dans les fluides respiratoires. Et elles sédimentent, et là elles peuvent pénétrer à l'intérieur des cellules. Donc les cellules sont capables de les phagocyter, et ensuite par transcytose on peut les retrouver, et ça a été montré tout à fait clairement, donc au pôle basal. Mais surtout, ce qui se produit là, c'est la sécrétion avec des mécanismes dont je vais reparler, des mécanismes moléculaires qu'on connaît bien maintenant, la sécrétion de molécules de l'inflammation, des cytokines pro-inflammatoires, au pôle apical, donc vers l'extérieur, vers la lumière des voies aériennes, mais aussi au pôle basolatéral. Et donc ça explique certainement pourquoi, quand ce sont chez les asthmatiques par exemple, chez les gens qui ont des problèmes d'allergie, ça peut augmenter, donc provoquer le déclenchement de crises d'asthme. Alors, le niveau alvéolaire est, à mon avis, sans doute plus préoccupant encore, parce que là, les particules fines, ultra fines, et ces nanos intentionnels, c'est vrai aussi, donc je le répète pour les non intentionnels, eh bien, elles vont là ici se recouvrir en fait du surfactant. Les cellules ne vont pas les reconnaître en tant que nanoparticules. Elles vont reconnaître en fait des protéines qui peuvent être ainsi autour de ces particules. Elles vont pénétrer aussi à l'intérieur des pneumocytes. Et par transcytose, on va les retrouver dans l'interstitium. Ensuite, on va les retrouver dans le flux sanguin. Et ça a été montré. Alors, c'est une petite fraction, très petite fraction des particules qui passent ainsi, environ 1%. Mais en nombre, ça peut être beaucoup. Et ensuite, on va les retrouver, donc, du coup, répartis à partir du sang, dans le cœur, on va les retrouver dans le foie, on va les retrouver... Peut-être aussi pour certaines, pas toutes, de ces particules, elles sont capables de passer la barrière hémato-encéphalique et elles vont, et ça c'est tout à fait récent, elles peuvent se retrouver dans le fœtus chez les femmes enceintes. Ça a été montré récemment par des études qui ont été réalisées à Bordeaux, donc dans l'équipe de Patrick Brochard, ou sur des fœtus de femmes qui avaient été exposées à des polluants atmosphériques. On a retrouvé, donc après des avortements volontaires ou involontaires, on a retrouvé dans les tissus des nanoparticules. Et une étude alors qui a été réalisée sur le plan expérimental à l'INRA de Jouy-en-Josas sur des lapines gestantes, Alors, c'était avec des particules diesel, mais ils sont en train de refaire cela avec des nanoparticules intentionnelles. Eh bien, donc, après inhalation de particules diesel à concentration équivalente à celle auxquelles on peut être soumise dans une atmosphère polluée, mais sans plus, eh bien, on retrouve chez le fœtus, on retrouve des nanoparticules et surtout, il y a des modifications de la physiologie du fœtus. Alors, c'est une thèse qui faisait partie du jury là, il y a pas longtemps, et peut-être deux, trois mois. Les études continuent. Hein, toutes les études sont financées par l'ANSES en France. Hein. Et elle montre qu'il faut vraiment prendre des précautions. C'est un des arguments qu'on utilise d'ailleurs pour dire il faut absolument baisser la pollution de fond. Mais c'est vrai aussi sur l'exposition des femmes enceintes dans les milieux de travail à des nanoparticules. Hein. C'est pas seulement et puis le fait qu'elles fassent attention à leurs produits d'hygiène corporelle, les crèmes qu'elles utilisent et tout ça pour éviter ce type de choses. Alors on ne sait pas si ça va avoir des effets dramatiques chez le fœtus. Hein. Faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Hein. Là, pour le moment, on n'en sait rien. Sinon, dans l'étude qui a été réalisée à Jouy-en-Josas, là, dans une des équipes qui est vraiment top sur tout ce qui concerne la gestation chez la lapine, qui est un beau modèle, eh bien, il y a quand même des modifications de la physiologie de la mère et du fœtus. Donc voilà, faire attention. Alors je vais passer maintenant au comportement des nanoparticules dans l'appareil digestif. Alors dans l'appareil, il faut savoir que dans l'alimentation, on va retrouver donc du nano-argent, j'ai dit, en particulier dans les emballages. On retrouve du nano-titane, c'est-à-dire des nanoparticules de dioxyde de titane dans toutes sortes de produits, hein, et donc des bonbons. Et ça, je me trouve qu'il faut se bagarrer pour faire en sorte que ça soit éliminé, cela. Et je n'ai pas peur de le dire aussi quand je suis interviewée à la télévision et tout. Il faut vraiment, vraiment faire en sorte que ça soit éliminé. Donc, parce que le nanotitane est utilisé comme un colorant blanc, comme dans les peintures. Et dans les bonbons, donc effectivement, ce sont des poudres qui ne contiennent pas que des nanos, mais ça peut contenir de 10 à 40% dans les poudres utilisées donc dans les bonbons comme colorant blanc. Mais ensuite, on y mélange d'autres colorants. C'est la base, le colorant. Et puis ensuite, on va y mettre du rouge, du vert, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est aussi, donc, et là, on a jusqu'à de 10 à 40% de nanoparticules. Mais comme c'est en dessous des 50% de la définition, et ben voilà, ce ne sont pas des nanomatériaux. Donc on ne le déclare pas comme nanomatériaux. Là, il y a un vrai problème et donc il faut avoir ça en tête et le dire et le communiquer de façon importante pour que les enfants en particulier n'utilisent pas ces bonbons. Il faut savoir qu'aux États-Unis, où cette histoire est partie, et donc les petits Américains consomment aux alentours de 2 à 5 mg par kilo et par jour de dioxyde de titane. Alors bien sûr, pas uniquement sous forme nano, hein, mais si on considère que la fraction donc nano, c'est aux alentours de 10 à 40%, vous voyez ce que ça donne. Alors les petits Français, moins. Parce qu'il y a on trouve des publications maintenant sur ces expositions hein, d'enfants. Vous voyez. Oui. Ah bon, alors donc voilà, donc je vais aller vite. Alors, on a montré des translocations de ces nanoparticules de l'intestin vers les organes secondaires. Une étude qui a été faite ici avec des nanoparticules d'argent chez le rat exposé à des nanoparticules d'argent de 14 nanomètres et où on trouve, après 28 jours, gavage deux fois par jour, on trouve des accumulations alors ici, ce sont les nanoparticules. Ici, avec l'argent, il y a l'argent qui diffuse sous forme d'argent, donc ionique. Hein, donc là, il y avait une comparaison acétate d'argent et nanoparticules d'argent. Mais on voit que les nanoparticules, on les retrouve et elles persistent hein, dans le foie, dans le rein. Hein. Et alors, je voulais quand même terminer avec cette étude qui vient de sortir et qui a été médiatisée, donc étude de Toxalim à l'INRA de Toulouse, où avec justement des nanoparticules de TiO2 qu'on retrouve donc dans l'alimentation, comme je le disais, additif E171. Bon, il a été montré, donc c'est publié dans Scientific Reports là, le 20 janvier 2017. L'exposition chronique à cet additif alimentaire E171 par voie orale chez le rat induit des lésions prénéoplasiques au niveau colorectal. Et juste simplement pour vous illustrer ça, donc les nanoparticules de TiO2 à des concentrations, vous voyez, 10 mg kilo jour, je vous évoquais pour les enfants, jusqu'à 3 à 5 mg kilo jour. Hein. C'est, donc on est dans la gamme. Ici, simplement, ça c'est des nanoparticules de TiO2 qu'on utilise comme référence. Hein, le laboratoire européen, donc le JRC, les fournit pour qu'on puisse comparer les expériences réalisées avec cela. Vous les voyez ici en rouge, les noyaux ici en bleu, hein, et on les retrouve quand on associe les deux images, on voit bien qu'on en retrouve dans le noyau, hein, des cellules, c'est les plaques de Peyer qui sont dans la paroi intestinale et qui ont un rôle immunologique, hein. Et ici, c'est le fameux E171. Hein, et on retrouve les mêmes images aussi dans le noyau essentiellement, mais aussi dans le cytoplasme. Hein, et ça, après une exposition orale de 7 jours chez le rat. Et alors, dernière diapo, ça provoque une réponse inflammatoire dans la muqueuse intestinale chez le rat. Alors ici, après un traitement de 100 jours, hein, 10 mg kilo jour, avec l'additif 171, on voit ici, ce sont des cytokines, je ne vais pas détailler, mais enfin des cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, on voit ici IL-8, et puis on voit qu'il y a, de toute façon, ce n'est pas toujours significatif, mais qu'il y a toujours quand même une augmentation, ce sont les barres noires. Donc vous voyez, là, cette expérience est très importante parce qu'elle a été réalisée avec des concentrations réalistes, parce que souvent on nous dit en toxicologie, sont des concentrations trop élevées, finalement ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Là, c'était donc des concentrations réalistes et avec en plus donc la formulation en fait utilisée par les industriels eux-mêmes. Hein. Donc voilà, alors je ne vais pas, donc j'avais prévu vous parler un petit peu de toxicité quand même, voyez comment ça peut être internalisé dans les cellules. Hein. Et là c'est donc avec du noir de carbone, et c'est des cellules bronchiques en culture là, et du TiO2 là, donc des nanoparticules de TiO2 donc dans des vésicules. Ça provoque toute une succession d'effets au niveau cellulaire avec la formation de ces radicaux libres, donc activation de signaux, de voies de signalisation, de facteurs de transcription, modulation de l'expression de gènes. Et puis, bien sûr, il y a toute la question de l'évaluation des risques, avec le fait que ça a été évoqué au Grenelle de l'environnement, qu'ensuite, dans la loi Grenelle, il y avait la décision d'un débat public qui s'est plus ou moins bien passé, mais aussi la nécessité de déclaration de la présence de nanoparticules dans les produits donc pour le grand public, la nécessité de déclarer la fabrication et l'importation de la mise sur le marché. Alors, pour cela, c'est en cours. Hein. Par contre, la déclaration et l'étiquetage, c'est en discussion. On a beaucoup de mal à faire avancer les choses. Alors, les déclarations se font en ligne. Actuellement, c'est Air Nano depuis 2013. Et simplement, pour vous rendre compte, là, c'est pas très bien. J'ai repris ça du site pour 2016, du site de l'ANSES. En fait, ce qui apparaît, ce qui les a beaucoup étonnés, c'est que le nombre de déclarations, là, donc c'est l'année dernière, ça a été beaucoup l'agrochimie, les céréales et tout cela. Donc, on utilise des nanoparticules actuellement pour l'enrobage des semences, en association avec les pesticides. Et puis, bon, la fabrication de parfums, etc. Donc, pour tout ce qui concerne aussi, bien sûr, le cosmétique. Hein. Et bon, voilà. Alors, vous voyez les tonnages hein, qui sont quand même extrêmement élevés. Hein. Voilà, rien que pour ces produits qui concernent l'agrochimie, hein, 117 000 tonnes. Hein. c'est pas rien. L'industrie chimique, 95 000 tonnes, etc. Les pigments, bien sûr, 20 000 tonnes, etc. Vous voyez, donc, une vraie problématique. Et puis, j'ai écrit un livre pour le grand public qui est sorti. Voilà, je me fais un peu de pub. Ça me rapporte rien, mais j'ai fait ça vraiment pour le grand public, pour expliquer tout ça. Faut-il avoir peur des nanos ? Chez Buchet-Chastel, c'est paru l'année dernière. Donc vous pouvez le trouver sans problème. Et merci de votre attention.
Merci Madame Marano. À quoi ça sert ? C'est une question. À quoi ça sert de faire une déclaration si en fait les choses ne changent pas ? D'abord, il y a le problème de déclarer le grand public. Quand on a commencé à organiser les journées d'études sur les nanos, il y a quelques années, on a eu à peu près 35 personnes qui sont venues, je vous l'ai dit, différentes disciplines. Et en fait, on remarque quand même que le grand public, c'est la raison pour laquelle votre ouvrage est très important, puis des journées comme celle-ci, le grand public ne s'intéresse pas aux nanos. Alors, par exemple, s'il consomme des aliments, il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait tel ou tel colorant. Mais les nanos, pour eux, c'est un concept qui est complètement abstrait.
Ça change.
Et voilà.
Ça change. Il y a eu beaucoup d'émissions, pas mal d'émissions de télé là-dessus. Et ça change. Non, là, il y a une évolution, à mon avis. C'est pas tout. Peut-être, au moment du débat national, les gens s'y intéressaient relativement peu. C'était surtout les associations qui s'intéressaient à cela. Mais là, pour le grand public, ça change. Pour faire en sorte, en fait, l'étiquetage, normalement, pour les produits de beauté, c'est obligatoire, mais là, parce qu'ils ne sont pas gérés donc de la même façon sur les normes, les produits de beauté, que les produits agroalimentaires, par exemple, et les autres. Mais pour l'agroalimentaire, pour le moment, les industriels, donc normalement, ils sont obligés d'indiquer entre crochets qu'il s'agit de nano, mais ils ne le font pas à cause de la définition.
De toute façon, il faut aller au supermarché.
Oui, voilà.
Une loupe et puis un lexique.
Oui, oui.
Vous voyez. Une loupe dans une main, un lexique dans l'autre, et puis on ne peut pas prendre le produit de toute façon.
Oui, Roland Quignot, Vie de Nature. Je voulais remercier Mme Marano, comme tu l'as fait, mais pour son exposé très clair, et puis surtout depuis la fois où elle était venue, donc dans le contexte de la réunion organisée par Poitou-Charentes Nature et Vie de Nature, ici, pas loin de Poitiers. Vous nous aviez surtout parlé des particules diesel, mais là, c'est une autre dimension, les particules intentionnelles, et je crois qu'effectivement, on a un peu de soucis à se faire. France Nature Environnement, qui est notre fédération nationale, s'intéresse au problème depuis assez longtemps.
Ah bah oui, voilà. Avec José Cambou,
voilà, et vous avez invité Grenelle, d'ailleurs à Paris, moi j'avais assisté à cette réunion très intéressante, depuis 2006 quasiment. Et la position de France Nature Environnement, c'est, en ce qui concerne le cosmétique, l'alimentation, c'est vraiment, et pas seulement, on l'a vu, beaucoup de domaines d'utilisation, ce serait un moratoire, parce que, sauf pour ce qui concerne, et vous avez bien fait de le souligner, tout ce qui est médicaments, médecine, etc., où là, il y a des voies de progression et qui peuvent être très intéressantes. Mais partout où le grand public peut être en contact avec ces nanoparticules, on devrait être beaucoup plus précautionneux. Pour les travailleurs des usines qui en fabriquent, vous avez raison de le souligner, ça évolue. Il y a une surveillance avec les problèmes de métrologie, parce que ça, c'est aussi très complexe. Mais pour le grand public, très peu. Alors, les déclarations qui sont faites dans le registre Air Nano, que le monde entier nous envie, parce que la France est précurseur dans ce domaine, 400 000 tonnes déclarées en 2016, c'est quand même énorme, vous le soulignez, dont 120 000 en agriculture. On se demande bien où ça passe, quoi. Hein. Bon. Et à partir de là, il faut comprendre aussi que ce sont des déclarations faites par les fabricants, les distributeurs, mais on n'est jamais au dernier stade, comme vous le soulignez. C'est-à-dire que les petites entreprises qui utilisent ce qui est fabriqué par les grosses ne sont pas forcément au courant. Les fabricants de matériel de sport, de choses comme ça, voilà. Et le grand public, encore moins, même si l'étiquetage est obligatoire pour les cosmétiques depuis 2013, début 2013. Et pour l'alimentation, ça devrait aussi y figurer. Et il faut prendre sa loupe quand ça existe, et ça n'existe pas partout. C'est un petit N entre crochets.
Oui, il y a un nano entre crochets.
Alors, il y a une... il y a aussi un autre aspect, c'est que un produit, ça a une durée de vie. Hein, et pour beaucoup de produits, du berceau à la tombe, comme on dit, on devrait connaître. Là, ce n'est pas le cas. Et il y a d'autres personnes qui vont être soumises à une exposition. C'est par exemple dans tout ce qui est recyclage. Si ça passe par l'incinération, etc., là aussi, il peut y avoir des craintes. Donc, voilà. Donc là-dessus, il y a vraiment beaucoup de progrès à faire. Moi, je voudrais ajouter que, en ce qui concerne le plan national santé-environnement, les nanoparticules sont prises en compte. Il y a une ligne. De même façon, il y a plusieurs actions. Bien sûr, c'est décliné au niveau régional, dans un plan régional santé-environnement. Bon, les associations ont participé, tu y étais aussi, à un certain nombre de réunions là-dessus. Et on s'est un petit peu bagarré parce que ce n'était pas un sujet prioritaire, comme nous l'a dit l'ADREAL et l'ARS. Oui. Mais pour essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins une fiche action là-dessus, donc au niveau régional Nouvelle-Aquitaine. Alors nous avons proposé la fabrication d'un outil de médiatisation sur ces nanoparticules, sous forme d'expo et puis avec ateliers joints, etc. Nous espérons que les financements seront trouvés et qu'on pourra déboucher.
Merci beaucoup. C'est sûr. Qui voulait intervenir, monsieur Coumou ?
Non. La position de FNE, d'après ce que je me souviens, c'était surtout le moratoire pour les produits qui rentrent directement en contact avec l'homme, avant de savoir réellement les effets. Alors, ce que disent les industriels, c'est que on utilise ça depuis longtemps. On n'a pas constaté qu'il y avait des pathologies associées. Ce qui est vrai, n'empêche que pour le TiO2, il est classé par le Centre international de recherche sur le cancer comme cancérigène possible pour l'homme. Il est dans le groupe de B. Le problème, c'est que comme ce sont des produits comme exactement ce que tu disais, Xavier, des produits qui sont toujours associés à d'autres, que ça n'a pas des effets immédiats, bien évidemment, que ça va avoir des effets, surtout s'ils sont, ce qu'on montre maintenant, c'est qu'ils sont accumulés. Donc ça va avoir des effets sur le long terme. Et comment peut-on prouver un effet sur le long terme, sauf si on se trouve dans la situation de l'amiante, où il y avait vraiment un cancer bien spécifique, le mésothélium, et qu'on a pu faire une relation directe. Mais pour le reste, comment faire? Voilà, donc c'est pour cela que, en tout cas, pour les enfants, moi, ça, les bras m'en tombent quand je vois que les industriels nous disent « Mais non, il n'y a pas de problème, on est autorisé. » Alors, il y en a qui commencent à bouger. Hein. Aux États-Unis, Donuts a décidé d'éliminer le TiO2 de son utilisation. En France, c'est les têtes brûlées là, qui ont décidé aussi d'arrêter cette utilisation. Il faut espérer que ça bouge. Il y a les M&M et tout. Alors, les politiques jouent. Je me souviens, il y a 2 ans, il y avait Beauvais qui avait branlé, qui était intervenu. Bon, maintenant, c'est Hamon qui intervient. Bon, il faut convaincre les politiques, effectivement. Ça, je ne saurais pas trop dire. Le parfum, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que dans les déodorants, il y en a. Oui.
Avec des problèmes dans les déodorants. L'incidence sur le cancer du sein, éventuellement. C'est ce qu'on dit.
Ça, hein. Oui, c'est parce qu'il y a de l'aluminium. Et il y a souvent, maintenant, on n'utilise pas. Oui.
C'est un mélange.
C'est des mélanges, oui.
La dernière.
TiO2, il faudrait peut-être mieux dire dioxyde de titane, parce que c'est sur les dentifrices, par exemple, je suis allé voir dans un supermarché, c'était une des seules occasions que j'avais, la majorité des tubes de dentifrice contiennent dans les composants, et c'est écrit à toutes lettres, dioxyde de titane, je ne sais pas, pour les parfums. Je collectionne je garde des emballages pour des animations. Il y a 2 ans, les M&M's avaient dans la composition entrecroché nano. Il n'y en a plus maintenant, ça veut dire qu'ils l'ont enlevé ou qu'il n'y a plus l'obligation de le mentionner. Alors, après, c'est vrai que quand on va chez Decathlon, on peut acheter des fringues, des chaussettes qui sentent plus, qui sentent pas l'odeur de mes pieds, mais on les passe à la machine à laver. Ça part aux égouts, à la station d'épuration, c'est pas filtré. Dans la rivière, qu'est-ce que mange le poisson en nanoparticules? La personne qui va manger le poisson et qui va, ou l'eau qui va être pompée dans la station suivante. Moi, ce qui...
Mais là,
dans le micro, madame,
Oui, sur ce point-là, donc, excusez-moi de vous avoir coupé, mais ensuite vous reprendrez. Sur ce point, il y a le CEREJ qui a fait des études de contamination dans la chaîne alimentaire. Voilà, et on peut retrouver ça. Mais peut-être vous n'aviez pas terminé.
Je voulais vous remercier et puis surtout, je trouve que ça fait le lien peut-être avec l'intervention suivante, c'est même en absence de certitude d'effet sur la santé, parce que c'est tellement complexe, comment est-ce qu'on peut arriver à lancer l'alerte auprès des industriels, parce qu'évidemment, eux, ils vont être friands d'attendre avant qu'on puisse mettre en évidence des effets sur la santé. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui montre la complexité. Et peut-être l'attentisme de certains industriels en disant pour l'instant on peut continuer parce que c'est tellement difficile de montrer un effet direct sur la santé que...
Ce que je ne comprends pas là-dedans, c'est pourquoi finalement l'industriel pourrait aussi essayer d'utiliser ça comme argument marketing, de dire bah voilà, on ne met pas de nano dans nos produits, on ne met pas de cire. Mais... Voilà, peut-être, mais bon, je trouve que là-dessus ils sont conservateurs, voilà, et c'est dommage.
Mais c'est vrai que on en parlait hier, c'est que les industriels, en fait, souvent se répartissent en trois groupes et certains l'ont étudié. Il y a ceux qui ne bougent pas en disant j'ai encore le temps tant que la réglementation ne l'a. Il y a ceux qui commencent à investir en recherche et développement tout en continuant à éliminer ou à continuer à faire. Et puis il y a ceux qui en font une force marketing. Mais c'est effectivement à changer complètement le processus. C'est ce qu'on disait, quelquefois il faut du temps. Et ça, c'est. C'est joli. Alors, Madame Jas, que nous accueillons avec plaisir, qui justement, comment faire bouger les lignes, en fait, va nous parler justement des lanceurs d'alerte dans le champ large de l'environnement, et donc qui est aussi très, je dirais, spécialisée, notamment sur les pesticides, mais plus largement sur toutes les problématiques de l'environnement. Et on trouvait que c'était intéressant, justement, de pouvoir avoir une présentation un peu différente, mais qui nous permette de montrer qu'ils sont protégés maintenant, vous allez peut-être nous le dire, mais c'est quand même pas simple. Merci, Madame Jas.
Merci beaucoup de l'invitation. Alors ma présentation va être peut-être un petit peu différente et je ne sais pas si je vais répondre à la question, enfin ce que vous attendiez. Mes propres recherches, je suis historienne et sociologue des sciences et l'histoire est très importante dans le sens où ça permet de voir sur le long terme. Et tout un ensemble de phénomènes qui ont été indiqués dans les deux premières présentations, par exemple sur le fait qu'on est sur les nanos notamment, qu'on est en réaction, c'est des on arrive après la bataille, enfin après qu'il y ait un fait accompli de la mise en évidence des produits dans l'industrie, dans l'environnement, c'est des phénomènes très anciens. Sur les problèmes de réglementation qui vont donner des définitions très, très étroites et qui vont exclure un certain nombre de produits et de problèmes, c'est des choses, des phénomènes qui sont assez classiques quand on est sociologue et historien. Et par ailleurs, sur la nouveauté des problèmes de santé et environnement, moi qui travaille sur les pesticides sur la longue durée, les premières grandes controverses et les premières grandes décisions sur les pesticides et des controverses qui ont été beaucoup plus importantes en France, c'est le début du XXe siècle. Donc on a des phénomènes de pic et de disparition de phénomènes silencieux, je vais en parler, et de réapparition des problèmes qui ne sont pas tout à fait de la même manière, mais souvent beaucoup plus importants parce que les décisions qui ont été prises et les stratégies qui ont été mises en place pour régler les problèmes avaient toujours tout un ensemble de limites pour diverses raisons, et notamment parce qu'il y avait des activités économiques à préserver. C'est toujours un peu de ces logiques-là. Mais là, comme j'avais compris qu'on me demandait de parler des lanceurs d'alerte, je vais parler de la sociologie de l'alerte. La sociologie des lanceurs d'alerte. On m'a parlé de lanceurs d'alerte. Il y a la sociologie des alertes qui est un peu, de l'alerte qui est un peu différente. Mais ce concept d'alerte est intéressant. Il a été créé vraiment en France. Autant le travail de deux sociologues, Francis Chaton-Renaud et Didier Torny, je suis désolée, on ne voit pas bien les noms. Et ce livre est paru en 1999 et c'est dans une suite de travaux qui ont été menés au cours des années 90 à un moment où il y a eu des alertes de sanitaires et environnementales extrêmement importantes et notamment par exemple la maladie de Creutzfeldt-Jakob, il y en a eu beaucoup d'autres et donc qui ont attiré l'attention de tout un ensemble de sociologues, de politistes aussi, de gens des sciences sociales sur ce type de questions. Le livre a été réédité en 2013 hein, et avec une intro, c'est un très très gros livre, hein, il est très très conséquent. Et le mot alerte est passé dans l'espace public hein, et on a aujourd'hui des lois sur les lanceurs d'alerte hein, en France. On en a eu 13, je crois, depuis 2001. Donc ce qui monte aussi, quand on les refait sans cesse, c'est qu'elles ne fonctionnent pas. Je ne vais pas vraiment en parler, mais il y a beaucoup de limitations. Je ne connais pas bien ce domaine juridique, mais si on refait des lois sans cesse, c'est qu'elles sont inefficaces et qu'elles ne fonctionnent vraiment pas. Alors, ce que je voudrais faire, je reviendrai quand même pas mal sur ce livre, mais je vais d'abord vous... Ce qu'il y a, parce que le concept d'alerte... de lanceurs d'alerte, il y a eu des travaux avant, parce que les problèmes de santé, environnement ou d'autres types de problèmes sont anciens, et donc dans les sciences sociales, on a eu d'autres types, et je vais en parler de deux, hein, juste vous présenter deux éléments, le terme anglais de whistleblowing, qui se traduit par dénonciation, mais qui aujourd'hui est utilisé par retour pour le terme d'alerte aux États-Unis, mais c'est pas tout à fait la même chose, et puis toutes les études sur ce qu'on a appelé l'intellectual suppression. Je vous parlerai des sombres précurseurs de ce livre et de ses apports et ce qu'il a montré et comment il est utilisé dans tout un ensemble de domaines. Et puis, parce que s'il n'y a pas que ça, je vous parlerai ensuite de ce qu'il y a tout un ensemble d'autres types de travaux, pas tous, mais qui questionnent ces problématiques de risque, de mise en visibilité, de mise en invisibilisation, mais qui ne s'inscrivent pas tout à fait dans la même manière de voir et les mêmes types d'analyses développées par les sombres précurseurs. Donc ça, ce sont des travaux en sciences humaines et sociales, c'est très large. Moi, je connais très bien Didier Thorny et Château-Renault, j'ai travaillé avec eux, mais je ne suis pas tout à fait dans mon type de travail n'est pas tout à fait dans le même type de perspective. Alors, avant ce concept d'alerte, il y a eu ce concept de whistleblowers qui s'est développé dans les années 70 et surtout 80 aux États-Unis. Et donc, c'est l'idée de dénonciation et c'est lié au passé, au présent, c'est-à-dire des problèmes dans des organisations, des entreprises, ça peut être aussi dans des organisations illégales, et quelqu'un qui appartient à ces organisations, cette entreprise, ces administrations, la mafia, va décider de rentrer en dissidence et de dénoncer des phénomènes passés ou présents, des phénomènes financiers, etc. Et ça peut toucher des questions environnementales, mais c'est vraiment sur le passé, sur le présent, on verra que l'alerte est plutôt orientée vers les prophéties sur le futur. Et c'est une question qui a été traitée dans différents domaines, mais d'abord en psychologie, en sciences cognitives, en sciences du management. Pourquoi ? Parce que quelle est la psychologie de quelqu'un qui va rentrer en dissidence ? Dans les sciences du management, ça peut être aussi un outil pour identifier et prévenir des formes de dissidence. Et en droit, c'est comment est-ce qu'on va protéger ou comment est-ce que le droit ne protège ou ne protège pas, puisqu'il y a tout un ensemble de clauses de secret qui sont liées aux entreprises, qui sont liées aux administrations. Et donc, ça a posé des problèmes. Ces gens-là qui pouvaient avoir beaucoup de problèmes. Et aussi, il y a des travaux de sociologie qui vont arriver, de sociologie ou de sciences politiques, pour essayer de mieux comprendre aussi ces dynamiques d'un point de vue plus social, en sociologie des organisations, dans tout un ensemble de domaines, sur comment et pourquoi des gens ou des dispositifs vont permettre ou ne pas permettre, ou vont tenter de contrôler le fait de rapporter des wrongdoings, comme on dit en anglais. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais il y a un domaine aussi qui est moins connu, mais qui est quand même important, qui est celui de l'intellectual suppression, et qui s'est développé dans des milieux australiens dans les années 80. Pourquoi ? parce que l'Australie est un pays minier avec vraiment très important. Et il y a eu tout un ensemble de scientifiques, là, pour le coup, et de gens travaillant aussi dans des agences qui seraient l'équivalent des agences environnementales et sanitaires, ou des journalistes d'investigation très pointus, qui ont commencé à mettre en évidence des problèmes sanitaires et environnementaux et qui ont eu beaucoup de problèmes en faisant ça. Ces problèmes pouvant être liés à de différents types de pressions, des problèmes venant de l'État, des problèmes qui ont pu aller jusqu'à des menaces physiques, des violences physiques. Un ensemble de gens ont commencé à étudier ça. D'abord, quels étaient les dispositifs pour faire pression, pour supprimer à la fois la production de connaissances ou l'utilisation de connaissances sur des effets sanitaires et environnementaux. Et puis, qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi pour tenter de contrer ces mouvements? Alors, et là, la dimension économique, évidemment, du secteur minier australien était très importante, mais on va retrouver ça au Canada dans le gouvernement précédent. On retrouve ça chez Trump. Dans certains domaines, on a ça en Europe, dans différents secteurs aussi. Donc, c'est pas simplement dans des pays dictatoriaux où on arrive ça dans des pays dits à démocratie. Et ce concept de suppression a été réutilisé dans tout un ensemble de travaux, même pour étudier la production scientifique. Par exemple, sur le cancer, David Hess est une figure proéminente des Science and Technology Studies. Il montre pas seulement ça, mais que des phénomènes un peu, alors pas aussi violents, mais que dans la recherche sur le cancer, des pans entiers de recherche sur le cancer ont été mis de côté dans des formes de compétition, de hiérarchie, de domination, qui sont internes au monde scientifique. Il a montré dans d'autres types de travaux aussi comment des associations de patients, parce qu'il travaille sur la recherche médicale et le cancer, très puissantes, ont aussi orienté les recherches parce qu'elles avaient les financements, elles apportaient beaucoup de financements et ont fait éteindre tout un ensemble de dynamiques de recherche. Donc c'est plus large, ça a été repris, ce concept-là, pour montrer différents phénomènes. Et je reviendrai, l'idée de social justice, on retrouve aussi dans d'autres types de travaux. Je reviendrai peut-être à la fin si j'ai le temps. Donc les sombres précurseurs, donc c'est un livre qui paraît en 99, après toute une décennie. C'est un livre, j'insiste un peu dessus, parce qu'il est extrêmement important dans le monde de la recherche académique. Il a configuré tout un ensemble de travaux sur ce qu'on appelait la sociologie des risques, mais bien au-delà. Il est utilisé, moi j'ai rencontré des gens qui ont fait des alertes comme manuel pour savoir ce qu'il faut faire pour faire qu'une alerte aboutisse. Parce qu'ils décryptent bien tous les écueils que peuvent rencontrer des gens qui portent une alerte et pourquoi des alertes sanitaires environnementales échouent. S'il est aussi passé dans le domaine beaucoup plus large, en allant au-delà des questions sanitaires et environnementales, je ne sais pas, on parle aussi de lanceurs d'alerte pour des questions financières dans les banques, etc., aujourd'hui en français. On a des lois sur les lanceurs d'alerte, qui était une expression qui n'existait pas avant 99. Donc, en une quinzaine, vingtaine d'années, c'est un concept qui est allé bien au-delà. Alors, c'est un livre, et je ne vais pas rentrer dans le détail, qui a des apports théoriques considérables du point de vue des sciences humaines et sociales, notamment qui revisite la sociologie des risques à l'aune de ce qu'on appelle la sociologie pragmatique. Et donc, je ne vais pas, c'est pas, mais c'est pas, peut-être pas l'objet ici. Si vous voulez, dans l'excursion, je vous expliquerai. Mais un des points c'est à la fois sa richesse et sa force, mais ça va être aussi une partie de ses limites qui oblige à aller voir dans d'autres types de travaux, comme tout regard et comme toute approche. Il y a toujours, on peut voir des choses importantes, mettre en évidence des phénomènes, et puis en laisser de côté, je mettrai ça. Et puis, il y a des apports méthodologiques parce que ce travail repose sur la constitution de très très grands corpus avec des outils informatiques très puissants et qui ont été développés spécialement, qui existent encore, toujours, mais qui sont bien sûr pas accessibles à tout un ensemble, au commun des mortels. Et c'est aussi cette puissance des outils, des corpus et de l'analyse des corpus qui permet d'avoir des analyses assez fines. Donc, c'est basé aussi sur trois cas. Le livre développe essentiellement trois cas. L'amiante, le nucléaire et la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui ont été des choses importantes pendant les années 90. Alors, il y a beaucoup d'autres chercheurs en sciences humaines et sociales qui ont travaillé sur ces cas, mais eux font des contributions spécifiques à ce cas. Alors, qu'est-ce que, une des choses importantes par rapport à ce qui existait auparavant en termes de sociologie des risques, c'est qu'ils montrent, d'abord, ils vont au-delà de ce qui... alors, l'idée que... d'abord, c'est pour qualifier des acteurs qui, dans le domaine des risques, soulèvent des problèmes graves et dénoncent en même temps les autorités qui sont dans l'incapacité des autorités à les prendre en charge efficacement, mais si aussi qui annoncent des futurs où il y aura des problèmes. Des futurs qui ne sont pas nécessairement advenus encore, parce qu'on n'arrive pas encore à objectiver les problèmes. En même temps, pour tout un ensemble de questions qu'ils ont eux-mêmes traitées, l'amiante, le nucléaire, dans les années 90, il y a déjà une histoire dans le passé. Donc ancienne, donc c'est pas, c'est, ça se base aussi sur, c'est un mouvement un peu historique, un peu plus long. Mais c'est vraiment sur l'idée de focaliser sur l'annonce de grandes catastrophes à venir. C'est l'idée aussi que les lanceurs d'alerte et le type de travail qu'ils ont fait, le type des méthodologies qu'ils ont utilisées montrent que ce n'est pas simplement des producteurs de connaissances scientifiques dissidents ou des acteurs de la société civile très engagés, des OND, des associations, qui peuvent lancer des alertes. Ça peut être tout un ensemble d'autres types d'acteurs qui n'en sont pas nécessairement aussi engagés ou visibles, et par exemple des gens qui sont dans des administrations et qui vont faire un travail un peu plus fin, qui vont relancer le travail et qu'on ne voit pas nécessairement, et qui peuvent aussi faire... moi j'ai un thésard qui travaille sur les PCB en France et qui montre très bien comment la question va être traitée dans des arènes de scientifiques, dans le Rhône par exemple, dans les années 90. C'est pas des gens qui vont être très visibles, mais qui vont quand même faire un travail interne aux administrations et dans les espaces et qui vont faire que la question va être prise en charge. Il y a aussi des associations, mais il va y avoir d'autres types de travaux et d'autres types d'acteurs, donc ils montrent toute une grande variété d'acteurs extrêmement variés et donc qui sont importants. Donc les lanceurs d'alerte ne viennent pas nécessairement des mondes de la protestation et de la contestation. C'est quelque chose, c'était un résultat extrêmement important. Et aussi, et je vais essayer d'être ce que je viens après, ils vont faire un travail très fin, à cause de leur très grand cursus, pour essayer de caractériser le passage du statut de prophète de malheur, c'est-à-dire des gens dont on va dire, oui, ils nous annoncent des malheurs, mais enfin, bon, c'est un peu des... ils sont un peu tarés, ils exagèrent, etc., à celui de lanceur d'alerte, qui n'est pas tout à fait la même chose, où on commence à prendre les choses en considération, et on commence à considérer que, finalement, il va y avoir... on les prend en sérieux, et on commence à mettre en place, à constituer quelque chose qui va être une alerte, et à mettre en place des dispositifs pour tenter de traiter et prendre en charge l'alerte. Et ce qu'il montre, c'est que c'est pour arriver au processus d'alerte, et que le processus d'alerte, pour qu'il soit efficace, c'est extrêmement complexe, extrêmement incertain, qu'il y a beaucoup d'écueils, est-ce qu'ils vont appeler, c'est le vocabulaire de la sociologie pragmatique, d'épreuves à passer. Et que finalement, c'est pas simplement, ils vont sur deux conceptions qui aujourd'hui apparaissent très caricaturelles. D'une part, les alertes, ça n'aboutit jamais. Et d'autre part, dès qu'on lance une alerte avec suffisamment de preuves, ça va aboutir à quelque chose. Et donc, ils vont montrer très finement, ils vont mettre en place une espèce de processus. Alors, j'ai oublié de l'indiquer, mais de la vigilance. Alors, ils vont appeler la vigilance, l'alerte, la controverse, la polémique, l'affaire, la crise, et après un nouvel état de normalisation avec de nouveaux dispositifs de vigilance qui vont être transformés. Mais à chaque étape, il y a vraiment tout un ensemble d'épreuves pour les gens qui portent cette alerte, et ça peut foirer, si on peut dire, ça peut échouer et ne pas avancer. Et c'est avec permet d'expliquer pourquoi un certain nombre d'alertes ne passent pas, ne fonctionnent pas, et donc ils vont mettre en place tout un ensemble d'éléments. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que il y a des mises à les preuves des dispositifs existants de veille et de gestion des risques dans l'espace public, mais aussi, et c'est un petit peu ce qui manque dans leurs analyses, il y a aussi des relations de pouvoir. La sociologie de pragmatique refuse d'envisager la question du pouvoir, des asymétries de pouvoir, et donc là, ça pêche peut-être un petit peu de mon point de vue. Mais c'est quand même très très précieux pour comprendre ces éléments et toutes ces, ce qu'on appelle ces épreuves et comment il y a des formes de résistance et tout ce que doivent affronter les personnes qui lancent des alertes. Moi, par exemple, j'ai beaucoup discuté avec quelqu'un qui s'appelle Alain Garrigou, qui a lancé une alerte qui n'a peut-être pas une grande visibilité sur les équipements de protection individuelle en agriculture. Il a préparé cette alerte, mais qui a eu des effets en termes de politique publique, enfin en termes de prise en compte par les, dans les espaces publics extrêmement, les espaces administratifs et politiques extrêmement importants au niveau français et européen. C'est une alerte qui montre que c'est des travaux, c'est la mise en évidence la mise en visibilité dans un certain nombre de milieux de travaux qui montrent que les équipements de protection individuelle ne diminuent pas toujours, bien loin de là, l'exposition aux pesticides en milieu agricole, mais peuvent aussi l'augmenter de manière importante. Et elle n'a pas eu grande visite publique, mais elle a eu des effets importants, cette alerte. Et il explique, et c'est lui qui l'a portée, mais il l'a préparée pendant 6 mois. Et ce livre, par exemple, a été une ressource. Voilà, pour qu'elle soit échouée, pour qu'elle ait une forme de portée, quoi. Alors, il montre aussi comment l'alerte peut avoir des effets de prophétie, ce qu'ils vont appeler déréalisatrice, c'est-à-dire on arrive à changer des choses et donc on va faire en sorte que la prophétie qu'on annonce, c'est-à-dire les malheurs que l'on annonce, ne se réalisent pas ou se réalisent moins, donc ils ont des éléments là-dessus. Alors ce qu'il montre aussi, c'est que les cheminements ne sont pas linéaires, qu'il y a des temporalités différentes, qu'il y a des moments de silence, que suivant le niveau où on se place, les problèmes n'avancent pas de la même manière, la prise en compte n'avance pas de la même manière. Ils ont tout un ensemble d'éléments et ça mérite donc d'être... c'est vraiment un travail important de ce point de vue-là. Ce qui est intéressant aussi, moi je trouve, c'est l'idée de ces idées de régime de vigilance. C'est-à-dire qu'avant l'alerte, il y a des dispositifs de vigilance qui permettent de surveiller, qui vont permettre de repérer à certains moments des problèmes. Et le travail scientifique est une manière de faire de la vigilance. Ce n'est pas du tout le seul, ça peut être aussi les associations, ça peut être aussi tout le travail d'administration qui sont, je ne sais pas, en charge de surveillance de l'eau. Dans le CLADEC, la chlordécone, on pense souvent que c'est les... que ça arrive. En fait, il y a eu tout un travail dans les administrations en charge de la surveillance de l'eau qui est passé totalement sous silence, mais qui ont bien repéré les problèmes et mis dans la Guadeloupe et en Chlordéco et en Martinique les problèmes bien avant que ça devienne public. Et qui avait commencé à mettre en place des actions, mais ça, même les associations qui militent l'écartent, l'oublient, parce que pour dire que l'État français n'a pas fait grand-chose, mais c'était des gens qui travaillaient au quotidien et qui ont fait leur travail de surveillance et qui ont relevé des problèmes et qui ont commencé à agir bien avant que ça devienne public. Et de fait, l'alerte, quand elle aboutit, elle va aussi déboucher sur la mise en place de nouveaux régimes de vigilance, et c'est souvent de la surveillance, de la traçabilité, voire de la précaution. Ça ne veut pas dire que ça va régler tous les problèmes et que ces dispositifs n'ont pas tout un ensemble de failles. Donc le livre aussi pose aussi la question des régimes post-alerte, post-crise et de leur mise en place. Alors, la manière dont ont travaillé Francis et Didier, donc Francis Chatorino et Didier Torny, ils ont utilisé ces grands corpus qui sont évidemment constitués de documents publics. Ça va être la presse, des rapports administratifs, et ils ont développé des outils extrêmement puissants pour absorber le web. Sauf que tout ce qui n'est pas sur le web... ça ne passe pas dans leur analyse. Donc, ils vont beaucoup insister sur tous les processus de visibilisation et ce type d'action, même si pour les dossiers qu'ils utilisent, ils vont faire des entretiens, qui est un travail plus classique de sociologue, on va aller voir des archives, mais en même temps, c'est quand même sur les processus de visibilisation, c'est quand ça vient dans l'espace public. Et donc il y a toute la question de ce que les politistes vont appeler le travail discret, ce qui se passe dans ce qui n'est pas visible, ce qui ne va pas aller sur le web, ce qui ne va pas atterrir dans la presse, ce qui ne va pas atterrir et qui est un travail extrêmement important aussi, qui ne va pas se traduire par des rapports ou tout le travail pour modifier un rapport. Quand il arrive, on le sait tous, un rapport d'expertise ou une décision de loi, elle a été changée 15 000 fois dans des espaces confinés, etc. etc. Et donc, ces politistes qui vont travailler sur les problèmes publics et comment et pourquoi aussi quelque chose devient un problème public et une question et d'autres questions ne le deviennent jamais alors qu'elles pourraient le devenir. Et donc, il y a tout un ensemble de travaux qui vont aller sur les problèmes de santé publique et qui vont aussi s'intéresser en se disant ce sur quoi il faut focaliser, c'est sur ce qui est aussi invisible, et donc qui ont d'autres types d'outils qui vont passer beaucoup par l'entretien, par les archives, par l'accès à des comités, l'observation de comités, etc., etc., et qui donc, ce qui va leur permettre aussi de faire d'autres choses, d'étudier toutes ces périodes de silence qui identifient bien Château-Renault et Tourny, mais dans lesquelles ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais dans ces périodes de silence, ça veut dire aussi que le travail peut se faire dans des espaces extrêmement, en sociologie, on parle, ou en sciences politiques, confinés. Et il peut se passer beaucoup de choses qui redéfinissent et contribuent à redéfinir les problèmes. Par exemple, ils identifient bien qu'il y a eu un moment de visibilité publique de la question de l'amiante en France dans les années 70, dans le monde du travail, et qu'il y a un autre moment dans les années 90, mais quelqu'un comme Emmanuel Henry travaille beaucoup sur ce qui est passé dans ces 20 ans, et ça ne veut pas dire parce que ça n'était pas public qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont passées dans des espaces confinés, à la fois chez les industriels, dans l'État, etc., etc. Moi qui travaille sur les pesticides, j'identifie ces périodes sur un siècle, et ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas rien pendant des périodes où il n'y a pas de visibilité publique. Donc c'est aussi ça, d'aller de travailler dans les arènes discrètes qu'apporte ce type d'études de regard politiste. Et donc ça, c'est à la fois c'est des regards différents, mais aussi complémentaires, mais aussi un peu différent, et il y a toujours, dans des réunions d'experts, il y a toujours dire oui, mais les arènes confinées, c'est important, les arènes publiques, c'est important, mais les deux, moi, je pense, sont complémentaires et permettent aussi de comprendre ce que vous disiez, c'est-à-dire, effectivement, ce que vous regardez en disant, voilà, pourquoi finalement, on n'interdit pas, pourquoi, bien qu'il y ait un certain nombre de preuves, il y a des choses, pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas dans les enfants, etc. Pourquoi, on est toujours en réaction, les PCB, on les a mis en quantité phénoménale avant de prendre en compte les problèmes. Pourquoi les problèmes de toxicité, d'écotoxicité sont toujours en réaction? Et aussi, pourquoi tout un ensemble de phénomènes de ce type-là, c'est aussi dans les aspects politiques, scientifiques et d'expertise. Donc c'est une littérature qui est importante. Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi c'est que les contre-figures, parce qu'on a la figure du lanceur d'alerte et de l'alerte, mais il y a toujours aussi les gens qui travaillent à ce que ne soient pas, ces alertes n'adviennent pas. Et aussi des phénomènes pour ce que ces alertes n'adviennent pas. Et donc les sciences sociales se sont emparées de la question aussi. Et à commencer par Francis Château-Renault, qui va développer le terme, comme il ne veut pas utiliser le mot pouvoir, il est dans une tradition sociologique qui s'est beaucoup opposée à la sociologie, qui s'est construite contre ou en démarcation à la sociologie bourdieusienne, ou à des sociologies qui vous voyez du pouvoir, à la fois les gens n'étaient pas conscients d'être pris dans des logiques de pouvoir, et donc le travail du sociologue, c'était de leur révéler les logiques de pouvoir dans lesquelles ils étaient pris, et par ailleurs qui voient le monde avec des grandes structures immuables, et donc une fois qu'on est dominé, on reste dominé sur des siècles. Enfin, je caricature, hein, vraiment je caricature, mais eux ont été en réaction à ce genre de type de sociologie, donc ils ont vraiment beaucoup de problèmes avec le pouvoir, et donc lui a développé quand même cette idée d'empreneur et d'emprise, c'est-à-dire avec des acteurs qui sont capables d'avoir des prises sur d'autres types d'acteurs, et des sociologiques, des acteurs aussi individuels mais aussi collectifs, qui sont capables de tenir des systèmes et de, même s'il y a des problèmes, des turbulences, etc., des attaques importantes, de rester en place et de rester assez solide. On peut penser à certaines industries, on peut penser à certains, dans tout un ensemble de domaines. Moi, dans mon travail, je parle d'emprise systémique, donc des emprises sur des systèmes qui sont extrêmement difficiles à faire bouger. Et même s'il y a des reconfigurations des acteurs qui tiennent, qui ont ces emprises, qui savent très bien s'adapter aux situations, au final, il reste encore, à toutes les attaques pour les déstabiliser, il reste encore très puissant. Donc on a certaines administrations, on a certains acteurs industriels, et ça sur des décennies, voire... un siècle, etc. Il y a d'autres types de travaux dont vous avez sans doute entendu parler, l'agnotologie, les marchands de doute. Alors l'agnotologie, ça a été construit par quelqu'un qui s'appelle Robert Proctor et par sa femme qui est anthropologue, qui a été reçue aujourd'hui comme c'est-à-dire la production de l'ignorance, c'est l'idée de la production de l'ignorance, qui est aujourd'hui très en vogue pour l'analyse des problèmes sanitaires et environnementaux créés par les industries, mais en fait qui vient de tout un ensemble d'autres traditions, par exemple pourquoi par exemple en anthropologie des groupes qui ont la connaissance qui la cachent à d'autres sur les études de genre par exemple comment les hommes vont avoir dans certaines sociétés vont avoir plus de connaissances que les femmes etc. Donc c'est vraiment sur d'autres types aussi de ça s'est construit sur d'autres types de travaux. Les marchands de doute ont eu un succès énorme, comme le livre de Proctor sur le cancer. Moi, je lui trouve des limites parce que je trouve qu'il a des côtés assez caricaturaux. Du point de vue des sciences sociales, je pense que c'est un bon outil pour les militants. Mais du point de vue des sciences humaines et sociales, il y a un ensemble de limites. Ils ont été construits aussi parce que aux États-Unis, il y a des procès qui obligent à mettre les industries à vider leurs archives et à les mettre en ligne. Et là, on peut mettre en évidence un certain nombre de phénomènes. Proctor lui-même a travaillé sur les archives de l'industrie du tabac, les industries américaines ont été obligées de les mettre en ligne. Ce sont des centaines de milliers de documents sur des décennies, et donc ils permettent d'identifier des faits que les industries à la fois avaient connaissance de phénomènes de toxicité du tabac, mais aussi l'ont caché. En même temps, il y a d'autres travaux qui ont travaillé sur ces archives que Proctor et qui montrent que la connaissance a été graduelle, qu'elle n'est pas linéaire, qu'elle n'était pas 30 ans auparavant, on savait tout, etc., etc. Donc tout ça est plus compliqué. Et puis, il y a d'autres travaux dont je vais parler auparavant qui montrent que dans les entreprises, tout le monde ne sait pas tout. Qu'est-ce que c'est que c'est une multinationale ? Qu'est-ce que c'est que la FDA, que l'EPA, il y a de nombreux services, c'est très compliqué, et qu'il faut aussi comprendre tous ces fonctionnements internes, et là pour moi, de point de vue des sciences humaines et sociales, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche, et prouver l'intentionnalité, c'est très compliqué, prouver le cynisme, et même le cynisme chez les acteurs, finalement, le cynisme n'est pas tout le monde, tous les gens qui travaillent dans ces multinationales, et tous les gens qui travaillent dans des agences ne sont pas cyniques du tout, et font bien leur travail, ont conscience de bien faire leur travail, même si ça a des conséquences qui parfois sont délétères. Donc ça mérite des analyses beaucoup plus fines et beaucoup plus poussées qui vont être développées dans ce qu'on a appelé la sociologie de l'ignorance. Alors l'agnotologie est un tout petit bout en fait de la sociologie de l'ignorance l'ignorance est un peu le contre de coup de l'alerte, puisque l'alerte c'est mettre en visibilité, et donc les dynamiques d'ignorance c'est aussi, et cette sociologie est très vaste, et va bien au-delà de l'acnotologie qui est juste une petite sous-branche et vise à comprendre toutes ces logiques de l'ignorance. Et donc il y a un manuel qui est sorti l'année dernière où on a effectivement, il y a un site web aussi qui présente tout un ensemble d'approches sur l'ignorance, et l'ignorance a commencé dans le monde des sciences. parce qu'il y a aussi tout un ensemble de processus qui font que dans le monde des sciences, il y a de l'ignorance et aussi, ne serait-ce que des formes d'approche différentes qui fait qu'on est très spécialiste de quelque chose et on ne connaît pas nécessairement ce qui se passe ailleurs, dans un autre champ connexe qui pourtant a le même objet, etc. etc. Il y a des phénomènes de domination aussi qui fait qu'on exclut des approches et qui font que pendant des décennies, certaines connaissances ne sont pas produites, mais qui ne sont pas liées à des acteurs nécessairement extérieurs au monde scientifique, etc., etc. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ces travaux sur l'ignorance, c'est par exemple les travaux de quelqu'un qui s'appelle Lindsay McGoy, pour nos questions sanitaires et environnementales, qui a, elle, travaillé beaucoup sur les questions de médicaments, et donc sur les industries pharmaceutiques et les agences en charge de délivrer les autorisations de mise sur lâcher sur le médicament, et qui montre comment est l'utilisation stratégique de ce qu'elle appelle le strategic unknown, ou le comment est-ce qu'on va construire des organisations au sein des industries et des agences qui vont hyper segmenter tous les processus d'évaluation. Donc chaque personne fait une évaluation sur un tout petit bout, ne voit pas, n'a personne, elle, n'a de vision d'ensemble. Et comment les personnes font très bien leur travail, même s'il y a mais en même temps, il y a tout un ensemble de limites à chaque fois, de biais par les outils, etc. Quelquefois, les outils, les évaluations posent des problèmes, mais comme c'est très coûteux de remonter les problèmes, ben on se dit de toute façon c'est qu'un petit bout, c'est pas grave. Etc., etc. Et par ailleurs, elle montre comment ce type d'organisation qui ressemble aux organisations illégales, où il y a eu des travaux de sociologie sur les organisations illégales, la mafia ou la résistance qui montraient ces segmentations, ça ressemble un petit peu à ça. C'est aussi quand il y a des procès, ça permet aussi de ne pas de rendre très difficile l'imputation de la responsabilité, puisque tout a été hyper segmenté et que. Et donc elle étudie un peu tout ça, et donc c'est très intéressant. Et moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, par exemple, que l'idée du marchand de doute, ce qui a son intérêt, mais d'un point de vue de sciences politiques ou de sociologie, c'est beaucoup plus intéressant de comprendre tous ces mécanismes qu'on retrouve aussi dans les agences. Pour l'évaluation des pesticides que je connais bien, on a exactement les mêmes phénomènes. La question des outils qui ont leurs limites, qui sont imposés, mais aussi tous ces phénomènes de segmentation, et aussi comment les agences, par exemple, n'aiment pas les lanceurs d'alerte internes. Et par exemple, elle a étudié le cas du Vioxx, qui a été retiré par le marché par le fabricant, qui est un médicament, je crois que c'est un antidépresseur, je ne me souviens plus. Et comment, en fait, il y a eu des alertes internes à la FDA. Et alors même que le médicament a été retiré ensuite, les personnes qui ont lancé les internes ont été placardisées complètement parce qu'ils avaient remis en cause en fait le travail de l'agence de fait. Et donc comment c'est compliqué, ces phénomènes d'intellectual suppression, ça peut être aussi sur des gens dont comme il y a des formes de pression, des formes de, enfin il y a tout un. Donc c'est quelques exemples pour vous montrer que ces sociologies de l'ignorance, elle est beaucoup plus large. Il y a des travaux aussi de quelqu'un qui s'appelle Scott Frickel, que moi j'aime beaucoup, qui montre comment les outils qu'on utilise dans les évaluations, elles accumulent de l'ignorance dans la manière dont elles ont été construites, et que les gens les utilisent de manière. Il a travaillé sur le Katrina, le cyclone, et sur comment l'EPA ils ont mis énormément d'argent, énormément de monde, ça a jamais été, pour évaluer les contaminations des sols, et la conclusion c'est qu'il n'y a pas de contamination. Et il montre que ce n'est pas parce que les gens ont été corrompus, etc. Et il a travaillé avec un écotoxicologue, des toxicologues, donc des scientifiques qui ont vraiment décortiqué les processus et les outils. Et c'est simplement que dans chaque type d'outil et dans chaque étape, il y a de l'ignorance, c'est qu'elle se cumule, un peu qu'elle exponentialise, et à la fin on arrive à des résultats qui sont complètement aberrants, mais sans qu'il y ait sans qu'il y ait d'intentionnalité. La question c'est ensuite qui a construit ces outils, pourquoi est-ce qu'ils ne changent pas, etc., etc. Mais les outils, les gens ont fait leur travail très sérieusement et sans être... c'est d'autres types de questions. Par ailleurs, il y a cette question du pouvoir qui me préoccupe beaucoup, et des relations de pouvoir et des asymétries de pouvoir. Et il y a tout un ensemble d'autres types de littérature sur l'environmental justice, qui est d'abord qui sont aux États-Unis des mouvements d'abord militants, mais qui sont devenus aussi des mouvements académiques, des courants d'analyse académique, avec des formes de recherche-action. Là, j'ai présenté quelques travaux, l'Environmental Justice, Phil Brown, qui vient des sciences sociales et de la Public Health, et qui a développé des outils, notamment ce qu'on appelle l'épidémiologie populaire, pour permettre à des communautés très exposées de produire eux-mêmes leurs données. Donc, qui est une vraie star. Et puis, il y a cette question aussi de la connaissance, quoi qu'elle soit produite par des scientifiques, par des mouvements associatifs et militants qui peuvent devenir très experts. C'est pas seulement les scientifiques qui deviennent très experts, mais qui ont des capacités de production de connaissances. Et Soraya Boudia et moi, on fait un gros travail sur la question du ce qu'on appelle power of science, of powerlessness of science, avec des Américains, etc. C'est aussi et d'autres types de chercheurs. Pour dire, voilà, la production de connaissances, qu'elle soit scientifique ou d'ailleurs qu'elle vienne de mouvements militants ou ailleurs, production de savoir expert, quelle que soit la Quel type de pouvoir ont ces connaissances. Et en fait, c'est pas les scientifiques ni qui dessinent, etc. C'est que la connaissance n'a du pouvoir que quand elle est dans des rapports de force qui sont favorables. Et elle peut contribuer à changer des rapports de force, elle peut contribuer à transformer des choses, mais il faut aussi que ça s'inscrive dans des mobilisations et des mouvements beaucoup plus larges et des luttes qui peuvent être extrêmement longues. Soraya Boudia et moi qui venons des Science and Technology Studies qui valorisons beaucoup le savoir scientifique, qui sommes très attachés, c'est les travaux qu'on a fait au cours de ces 10 dernières années et de plein d'autres personnes dans notre champ on a commencé à travailler sur l'expertise et le pouvoir de l'expertise scientifique, des savoirs scientifiques. On a été justement on a vu de plus en plus les limites, et donc on essaye de travailler sur ces questions-là. Et ce livre, si j'ai mis Powerless Science, c'est un peu de pub, mais c'est parce que aux États-Unis, il a un succès assez important, et notamment dans les mouvements les gens dans les associations qui se mobilisent au niveau environnemental, justement parce que au niveau environnemental ou de santé publique, etc. Justement parce qu'ils posent cette question du savoir et de la difficulté aussi à faire aboutir un ensemble de problématiques, même dans le long terme, même quand elles sont objectivées par des résultats scientifiques ou de production de savoir par des militants experts. Voilà. Donc cette question des asymétries de pouvoir, des relations de pouvoir, des capacités politiques à faire changer les choses me semble aussi extrêmement importante, et à le formuler en tant que telle, pas simplement en termes d'emprise. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, c'était passionnant et... Et donc de la nécessité d'avoir dans nos journées des historiens, sociologues, etc., des sciences. Je suis toujours très contente.
Donc Marie Legrand, je suis représentante en tant que vice-présidente de l'association Vienne Nature, et je suis une ancienne responsable de l'UFC Que Choisir. J'ai apprécié votre intervention, ignorant la plupart des livres qui nous sont présentés. Mais je trouve qu'elle manque d'appui sur le pays où vous êtes. Enfin, vous vivez en France, je suppose. Alors moi, je voudrais vous rappeler quand même quelques grandes lanceuses d'alerte françaises. La première chose qui me vient à l'idée, c'est Michel Rivasi, qui, juste après la catastrophe de Tchernobyl, a monté avec des collègues scientifiques de haut niveau la CRIRAD. Donc, il me semble que c'est un exemple assez remarquable. Ensuite, concernant ma modeste association de l'époque Que Choisir, en 1989, nous avons été les premiers à analyser l'eau du robinet un peu partout en France et mettre en évidence la présence de pesticides, parce que les autorités ne les mesuraient pas, alors que la loi le demandait. Quand on ne mesure pas, on risque pas de trouver quelque chose. Et puis, plus récemment, je trouve qu'il serait quand même juste de citer Marie-Monique Robin, qui a produit entre autres le livre « Le monde selon Monsanto ». Je citerai aussi Isabelle Saporta, qui est une belle lanceuse d'alerte. Et puis, plus modestement, dans notre pays, dans notre beau pays Nouvelle-Aquitaine, il y a une famille dans le Médoc, je crois qu'elle s'appelle Marie-Lise Birbéran, qui a lancé ces mois derniers le problème des cancers et des maladies liées aux pesticides de la viticulture. Donc voilà, pour toutes ces personnes, ben, je rappelle leur nom.
Alors, je suis d'accord avec vous, simplement, je connais très bien tous. On m'avait demandé de présenter la littérature en sciences sociales, pas des cas de lanceurs d'alerte. C'était un petit peu... Donc je présente la littérature et j'ai fait une revue de littérature. Effectivement, et je pense que c'est important que vous parliez de lanceuses d'alerte parce que de rappeler le travail des femmes. Moi, je connais plus particulièrement la question des pesticides. Effectivement, Marie-Lise Biberan, c'est quelqu'un d'important. Il y en a d'autres du travail qui a été fait dans le long terme. Et je pourrais vous raconter des histoires bien avant, bien intérieures en France. J'espère que cette année va sortir un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Pesticides et santé publique au XXe siècle et XXIe siècle » et qui porte essentiellement sur la France. Et donc dans lequel il y aura tout un ensemble et des choses qu'on a oubliées parce que la question des pesticides, j'ai dit tout à l'heure, les arseniques en pesticides, ça a été pendant des controverses extrêmement violentes et la première loi sur les pesticides, elle date de 1846 en France. Et donc, pour vous dire que ces questions-là, c'était des controverses bien plus importantes qu'elles ne sont aujourd'hui. J'ai travaillé aussi un peu sur les additifs et contaminants alimentaires. Il y a vraiment toute une histoire aussi en France, même dans les années 50-60, on a des milliers de nouveaux substances qui ont été mises en circulation comme ça du jour au lendemain, etc. etc. Donc ces questions-là sont importantes. Après, justement, on parle de je pense que le terme de lanceur ou lanceuse d'alerte, c'est un peu galvaudé. Et donc, dès qu'une personne met en place un problème, souligne et a une visibilité médiatique, est-ce que Francis Château-Renault et Didier Torny et d'autres qui travaillent sur les questions de risque, c'est pas parce qu'une question se met à avoir une visibilité médiatique et fait un tabac médiatique, ce qui est important, que l'alerte existe, qu'elle est prise en compte dans les espaces où on construit les politiques publiques, dans les industries, parce que les industries sont très réceptives aussi et font un travail interne quand il y a des alertes. Et c'est pas parce que... Et donc, pour qu'il y ait vraiment alerte, et pas simplement polémique ou simplement quelque chose sur un moment donné, il faut qu'il y ait un travail beaucoup plus complexe et long, et il faut que ça atteigne des endroits très, j'ai envie de dire, très confinés, justement, dans des administrations, dans des entreprises, dans des ONG. Et donc, la visibilité médiatique, et surtout sur un moment, et surtout sur des livres ou des documentaires qui parfois ont des limites importantes, c'est pas suffisant pour qu'il y ait une alerte, en tout cas au sens sociologique, et une alerte qui ait des conséquences, des portées de transformation. Ensuite, il faut regarder aussi quelles sont les transformations. Il y a des transformations qui peuvent être importantes, même de l'appareil juridique, de l'appareil politique, mais qui en fait, et là il y a tout un ensemble de travaux qui le montrent, même chez des juristes, des gens qui font des relations, tout un ensemble de travaux dont je n'ai pas parlé, qui montrent que des pans entiers de législation ont changé, avec sur le papier des choses qui devaient amener des améliorations, mais en fait rien ne change sur le terrain parce qu'il y a toute la question de la mise en œuvre, il y a toutes les possibilités qui peuvent être ouvertes de contournement, etc., etc. Ça, je n'en ai pas parlé. On se dispute souvent gentiment et bienveillamment avec Francis Château-Renault et Didier Torny, c'est qu'est-ce qui, enfin, il y a des choses qui peuvent changer de manière drastique sur tout un ensemble de plans. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change et quel effet là, c'est autre chose et c'est d'autres types d'investigations et de travaux qui permettent de mesurer, de regarder ce qui change vraiment et l'efficacité des travaux scientifiques, mais aussi des travaux sociologiques, des populations elles-mêmes exposées, si elles ont des améliorations ou pas, etc., etc. Par ailleurs, il y a un autre phénomène qui est important à prendre, ce que moi j'appelle l'illégalité de l'État. L'État peut produire beaucoup de lois qu'il ne respecte pas. Alors les politistes ont tendance à parler d'écart à la norme, donc pour dire voilà, qu'il y a toujours des adaptations, mais le nombre de réglementations, et donc changer la réglementation, changer les politiques publiques, il y a plein de phénomènes qui peuvent faire en sorte qu'elles ne soient pas appliquées, mais l'illégalité de l'État est un phénomène aussi extrêmement important.
Allez-y. Je me permettrai juste une remarque. Je rajouterai, moi, au niveau des affaires, l'affaire Mediator, hein, où il y a eu des vraiment... et non, évidemment, sur la santé, hein, où il y a eu des enjeux politico-financiers redoutables, pour ne pas en dire plus.
Je peux dire que dans toutes les affaires, il y a des enjeux politico-financiers. Mais c'est les affaires en plus très visibles. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins visibles. Et aujourd'hui, moi, je connais mieux ce qui se passe au niveau du glyphosate et j'ai un travail de recherche sur les perturbateurs endocriniens. Les enjeux politico-financiers sont extrêmement importants aussi, par exemple. Donc toutes les affaires, et d'autant plus celles qui deviennent visibles, ont des enjeux politico-financiers et c'est un des éléments à prendre en compte pour la difficulté à changer les choses, les délais dans les prises en charge, etc., etc.
Moi j'avais une question tout à l'heure sur ce que tu disais en termes d'extraction des informations, tu sais... c'est quoi exactement? C'est du text mining qu'ils font? Comment ils procèdent?
Alors c'est très compliqué. Ils ont un site, tu peux aller voir. Ça s'appelle l'outil s'appelle Prospero. C'est un polyclinicien de génie qui a développé ça. C'est vraiment très très complexe. Prospero. Et donc ils ont à la fois des systèmes qui ramassent les données et ils ont développé des formulaires d'interrogation sur maintenant 20 ans. Donc, qui sont très très pointus, tout est autorisé bien sûr. Et ils ont aussi un autre logiciel qui s'appelle Marlow, qui pose des questions automatiquement. Ils discutent avec Marlow, c'est Kalim et Château-Renaud a fait des papiers où c'est Marlow qui les a quasiment construits ce logiciel. Donc c'est vraiment très très puissant. Donc tout est autorisé bien sûr, tout est. Et moi j'avais eu une ANR avec Château-Renaud sur les effets faibles doses. C'est le cadre de l'expertise avec les... Et donc, on avait essayé de travailler ensemble, mais et on n'était pas d'accord parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord parce qu'on travaille sur le nucléaire, les pesticides, etc., les additifs alimentaires contaminants. Et donc, effectivement, eux montraient une montée en puissance de la problématique, mais nous, avec Soraya Boudia, en tant qu'historienne, on disait, mais ça a été très visible, mais parce qu'ils n'avaient pas les archives dedans. Et quand on a voulu commencer à rentrer dans les archives, c'était un coût de rentrer les archives pour avoir plus de. C'était un coût d'entrée trop élevé. En termes d'autorisation, etc., etc. Donc ça a quand même des limites, notamment sur le fait que c'est puissant ça permet de. Ce qui est l'autre puissance, c'est qu'ils suivent plein de dossiers en parallèle et qu'ils ont des outils très puissants, donc ils peuvent comparer un ensemble de dossiers. Ils ont une quarantaine de dossiers qu'ils peuvent comparer et donc ils peuvent en tirer un petit peu, j'ai envie de dire, des lois sociologiques. Sur comment ça fonctionne, enfin de la systématisation. Et donc, ce qu'ils appellent la vigilance, l'alerte, la controverse, c'est ce type d'éléments. C'est aussi parce qu'ils ont comparé des dossiers et c'est encore plus puissant aujourd'hui, 20 ans après, enfin 15 ans après. Donc, ils ont des formes de loi sur comment fonctionnent finalement ces alertes, les forces de ce que Château-Renaud appelle les forces de contrainte. Il appelle ça aussi la balistique des controverses, etc. Parce qu'ils peuvent comparer des tas de dossiers. Mais en même temps, ça produit toujours beaucoup de documents, que sur ce qui est public et pas ce qui est. Donc chaque spécialiste de chaque controverse, chaque dossier qui est allé faire le travail a un autre regard et souvent complexifie les histoires. Mais en même temps, c'est quand même très puissant, c'est quand même très important pour moi.
Oui, je voulais évoquer une chose que vous n'avez sans doute pas eu le temps de voir. C'est le rôle qu'ont pu jouer les scientifiques militants dans le lancement des alertes. Et avec des attitudes qui peuvent, sur le plan déontologique de la science, être considérées comme à réprouver. Je l'ai vécu directement sur la question de l'amiante, c'est pour ça que je peux en parler aussi. C'est-à-dire que ces scientifiques militants considèrent qu'ils ont, de façon intuitive, la certitude de ce qu'ils avancent et ils écartent tout ce qui ne va pas dans le sens de ce qui va prouver l'alerte, hein, ce qui va donner les éléments à l'alerte. Et donc tout ce qui, pour nous scientifiques, est absolument aussi important, qui concerne de la certitude, ils le gomment, ils peuvent même, je l'ai vu, transformer des données pour pouvoir prouver ce qu'ils ont donc ce qui pour eux est ce qu'ils ont à défendre et ce qui est leur certitude foncière, pas toujours aussi prouvée qu'ils veulent bien le dire. Et ça, c'est un point qu'il faut mettre en avant aussi dans les analyses qui sont faites.
Alors c'est des analyses qui, évidemment, j'ai pas rentré dans le détail des travaux. Je vais juste faire une remarque là-dessus, on pourra finir. Dans ces travaux, les figures des scientifiques engagés sont très étudiées. Et il y a plusieurs, en tout cas dans un certain nombre de travaux, il y a plusieurs types de figures modèles, si on veut. Et d'abord, les scientifiques, il y a des scientifiques extrêmement naïfs qui pensent que parce qu'ils ont des éléments qui vont prouver, enfin, il suffit de le dire, et qui vont se trouver confrontés à des formes qui ne mesurent pas la violence, parce qu'il peut y avoir dans certains lieux des différents types de violences. D'abord, on ne va pas les écouter, mais aussi, s'ils s'obstinent un peu, ils vont rencontrer des formes de violence, des laboratoires qui vont être, leur laboratoire va être fermé du jour au lendemain, ils ne savent pas pourquoi, etc. Il y a des formes de répression importantes. Et il y a toujours un ensemble de scientifiques qui vont refuser de s'engager parce que, ou ceux qui vont de se rentrer là-dedans. Ensuite, il y a ces scientifiques qui rentrent dans l'engagement et qui petit à petit vont aller se rentrer dans des logiques, mais c'est progressif, où ils vont perdre des caractéristiques en termes de ce qui est leur milieu de départ, où il faut faire très prudent, où l'incertitude est que ça soit, voilà, là, etc., etc. Il y a des scientifiques qui ont perdu leur carrière, qui sans perdre le critère, mais qui ont vraiment... Et ça commence très tôt dans les années... Alors avant, on pourrait trouver, mais dans les années 50 aux États-Unis, des scientifiques de premier plan sont engagés sur les faibles doses nucléaires. Aujourd'hui, on sait qu'ils avaient vraiment raison, parce qu'on sait de plus en plus. Et ils ont perdu leur carrière. Enfin, ils ont certains... Il y a des gens qui ont perdu un prix Nobel, qui étaient sur le point d'avoir un prix Nobel, qui l'ont perdu. Donc ça a des coûts importants. L'autre chose aussi sur l'incertitude, elle est utilisée aussi par les scientifiques qui travaillent pour les industries ou qui travaillent pour certains groupes et qui vont là, pour le coup, dans l'autre sens et créer de l'incertitude et entretenir de l'incertitude là où il n'y en a plus, là où il n'y en a pas, ou qui vont minimiser le niveau de preuve même si on ne sait pas tout. Etc. Donc les figures sont du côté des scientifiques, sont tout un panel, et donc c'est les travaux que l'on a. On a aussi des travaux qui montrent la temporalité de l'action politique ou dans des procès, la temporalité de la recherche qui sont pas les mêmes. Et donc les décisions sont prises avant que les protéines. Et donc il y a tout un ensemble. Donc tout ça est bien étudié. Enfin, j'ai pas le temps parce qu'une demi-heure, c'est un cours qui fait 30 heures. Voilà.
Moi, j'avais juste une dernière question, mais avec une réponse courte, mais je ne sais pas si ça va être faisable. Vous avez dit qu'effectivement, tous ces travaux se sont appuyés finalement sur des histoires d'affaires, et finalement qui est un peu une analyse rétrospective, et que maintenant vous avez à votre disposition, grâce à des moteurs de recherche, plusieurs affaires à étudier. Et maintenant, sur les perturbateurs endocriniens, qui est un peu une affaire en cours, en fait, en quoi finalement ces leçons tirées ou ces mécanismes ou ces modèles que vous arrivez peut-être ou pas, mais en tout cas en repérant un certain nombre d'ingrédients sur les phénomènes de blocage qui peuvent se mettre, en fait, est-ce que vous pouvez finalement aider les scientifiques à anticiper finalement les zones de blocage ou les différents cycles au vu de tout ce que vous avez acquis comme connaissance sur les affaires antérieures?
Alors je pense qu'il n'y a pas simplement les scientifiques, il y a les politiques, enfin, tous les acteurs engagés, voilà. Etc.
Voilà, le rôle des
ONG, etc. etc.
L'ensemble des parties prenantes. Comment arriver finalement à réduire les délais ou à
Les industriels maîtrisent encore mieux tout ça et sont capables d'agir dans beaucoup plus d'endroits. Mais effectivement, il y a des choses qui sont sans surprise. La décision de l'ECA qui est sortie hier sur le glyphosate ou d'autres décisions sont absolument sans surprise. J'aurais parié des millions, enfin peut-être pas, mais voilà. Voilà. Il y a tout un ensemble de choses et donc de choses qu'on peut anticiper. Quelquefois, on a des surprises et des bonnes surprises. Après, moi, j'ai une tendance personnellement, parce que j'ai ces dimensions historiques, parce que j'ai lu beaucoup de littérature, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs en France, aux États-Unis, des acteurs en Europe, que ce soit des acteurs des scientifiques, etc., ou que ce soit des acteurs associatifs ou politiques. Maintenant, je suis extrêmement pessimiste. Mais en même temps, je travaille d'une manière ou d'une autre avec des associations, et je refuse ce pessimisme-là. Sinon, on n'agit plus. Voilà, on n'agit plus. Voilà. Le pessimisme qui est le pessimisme du chercheur ne doit pas être celui du citoyen pour continuer à agir. Et je pense que du citoyen, et puis en essayant de garder des formes d'éthique, de balance, d'équilibre, etc.
L'histoire du diesel, moi, m'a rendu plus optimiste, mais il faut
Alors, il y a des choses qui sont réglées, mais le problème, c'est que, enfin, il y a des choses qui auraient pu être réglées beaucoup plus tôt, qui ne le sont pas et qui ont créé des dommages de très très long terme.
Oui.
Oui, oui, les zones de silence sont des moments très importants.
Il y aura de toute façon un débat de nouveau ce soir, mais merci beaucoup. Merci à tous, merci Nathalie.